chaud bientôt, on va être obligé d'aller couper.
On est passé d'un excès à l'autre. Une fois de plus, on est passé d'un excès à l'autre.
Et en plus, on a le nombril là.
Mais ce matin, tu n'étais pas là, mais c'était glacé.
Ah oui,
glacé. Oui. Glacé. Oui. Donc j'ai demandé à ce qu'on mette le chauffage.
C'est pas grave.
Bon, nous reprenons. Et ce matin, nous avons entendu deux historiens commentés par une sociologue. Et donc cet après-midi, nous allons d'abord entendre Jeannine Alfounian, qui est déjà intervenue d'ailleurs ce matin, donc que tout le monde identifie maintenant. Et peut-être qu'on fera un morceau de discussion, parce que je pense que ça sera dans la continuité des débats de ce matin. Une petite pause, et qu'ensuite on entendra Stéphane et Michael. Si vous en êtes d'accord. Oui. Oui. Ah ben Péchanski fait la discussion générale à la fin.
Des trois.
Hmm?
Des trois.
Oui.
Oui, mais la gestion de la discussion.
Oui.
Après,
alors, Jeannine. Non, justement, c'est juste une proposition. Je pense que ce que va dire Jeannine, je veux dire, va être aussi, va être dans la continuité de ce qui s'est discuté ce matin. Donc, je suggère qu'on fasse un premier 10 minutes, un quart d'heure de discussion que tu introduiras de la même manière et qu'ensuite, on passe à Stéphane Latté qui va avoir un point de vue un petit peu différent et à Michael qui... dont je ne connais pas le point de vue sur la question, mais qui parlera, je veux dire, de la position de la question en Allemagne. Bon.
D'accord.
Voilà.
Alors, ça marche, je peux commencer. Alors, avant de vous dire en quoi, effectivement, mon intervention est le prolongement de la matinée, je voudrais présenter globalement mon travail pour que vous voyez de quel endroit je parle. Donc, je suis née à Paris, de parents survivants du génocide arménien, qui ont, comme les autres survivants, sont arrivés en France en 1920. J'ai adoré l'école de la République, dont je parle dans tous mes livres. Je suis devenue prof d'allemand. J'ai enseigné dans un lycée en tant que prof d'allemand. Et peu à peu, j'ai éprouvé le besoin de faire un travail analytique. Et au cours de ce travail analytique, j'ai compris qu'il fallait que j'écrive. Et j'ai écrit un certain nombre d'articles qui sont devenus des livres. J'en emporte même avec moi pour ceux qui veulent les acheter, parce que je ne renie pas mes origines arméniennes. Et j'ai écrit ce qu'on appelle, je ne suis pas psychanalyste, mais je suis très souvent invitée par des psychanalystes parce que mon écriture est une forme de témoignage de qu'est-ce qui se transmet aux enfants de survivants. Donc c'est à la fois une écriture un peu autobiographique, mais en même temps théorique, puisque je connais assez bien, disons, un certain nombre de théories freudiennes. Bon, ça serait donc la présentation de mon travail. Maintenant, en quoi ce que je vais dire est une illustration, c'est comme si vous allez avoir des travaux pratiques de ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire que ce que j'essaye d'expliquer dans tous mes travaux, c'est que pour que le traumatisme parental, c'est-à-dire rupture de la culture, des milliers de morts, des charniers, perte de la culture, perte de l'environnement, débarquer dans un pays dont on connaît ni la langue, ni les mœurs, enfin bon, vous pouvez imaginer. Donc l'enfant baigne dans ce climat quand il est petit et il va à l'école. Alors à l'école, c'est bien parce qu'il y a les comptines, il y a la poésie, il y a les maîtresses, il y a autre chose qu'une mère qui travaille sans arrêt pour il faut gagner de l'argent, il faut gagner de l'argent, c'est-à-dire acquérir de la sécurité. Donc il y a à la maison une atmosphère de grande menace qui pèse toujours, et à l'école il y a la poésie française, la littérature classique, etc. Donc mon travail est une forme, si vous voulez, de démonstration du travail qu'il faut faire pour élaborer le trauma. Et ma thèse, c'est que ce trauma ne peut s'élaborer qu'en acquérant des identifications au pays d'accueil, c'est-à-dire en acquérant la culture, la langue du pays d'accueil, pour pouvoir dire qui l'on est, d'où l'on vient, et pour pouvoir dialoguer avec ceux de la culture autre qui ont éventuellement des destins communs. Et pour cela, c'est à cet endroit-là, évidemment, que cela n'est possible que dans un pays aux institutions relativement démocratiques. Et je dirais que dans mon itinéraire, j'ai rencontré une France qui est en voie de, disons, de disparaître un petit peu. Donc, mon parcours n'est pas forcément exemplaire pour quelqu'un qui ferait ce travail maintenant. Bon, alors après, nous pourrons discuter. Je commence donc. Alors, les spécialistes de la littérature du témoignage portant sur la Shoah mettent en évidence que certains témoins, rejoignant en cela l'auteur de l'écriture ou la vie, n'ont publié, voire écrit ce qu'ils avaient vécu que de nombreuses années après leur sortie des camps, comme par exemple Jean Améry, Charlotte Delbault, Imre Kertész, Ruth Pluger, etc. Il leur fallait évidemment créer de la distance et des instances médiatrices au sein de leur monde interne pour pouvoir s'éloigner quelque peu de ce à quoi ils avaient survécu. Un long temps devait s'écouler pour que naissent en eux des forces de survie génératrices d'enveloppes psychiques susceptibles d'accueillir dans l'écriture des souvenirs terrifiants, souvenirs pourtant non partageables avec ceux d'ici, restés indemnes d'un meurtre de l'humain, donc meurtre d'une partie d'eux-mêmes. Ce temps de latence qui sépare le témoin qu'ils furent de celui qui, bien plus tard, parvint à la capacité de témoigner de lui, on pourrait le signifier en disant qu'il fait recommencer à zéro la succession des générations après un génocide. Ce comptage d'un temps qui recommence à zéro signifie en effet que le premier humain, qui est d'une certaine façon le survivant, ne peut plus s'étayer sur les valeurs de sa culture, désormais détruite, mais qu'il a besoin de temps pour réinventer la structure de sa vie, sa culture et son langage. J'avancerai alors que cette temporalité d'une latence requise entre l'expérience des survivants et la possibilité qu'ils acquièrent d'en témoigner correspond à la temporalité qui, de façon analogue, va, à partir du survivant mutique ou étouffé par son ressassement mortifère, permettre à celui-ci d'engendrer sa descendance, ou plus exactement, ceux de sa descendance qui ressentiront la nécessité de s'instituer les héritiers de son histoire. Je pense donc que la gestation intrapsychique du temps, qui par clivage opère une coupure dans la psyché individuelle, est comparable à celle transgénérationnelle qui, d'une filiation qui se constitue, elle aussi d'une coupure, puisqu'elle opère chez celui qui est devenu apatride par une sorte de marcottage dans une terre nouvelle. Les deux configurations temporelles relèvent d'une même renaissance, des pulsions de vie qui, étonnamment, réclament d'être réinvesties, soit pour témoigner des chairs disparues, abandonnées sans traces, soit pour enfanter ceux à qui cette tâche sera inconsciemment déléguée. Mon exposé va illustrer par un exemple personnel la pertinence de cette gestation tributaire du temps, tant psychique, tant généalogique, temps historique des événements sociopolitiques, donc temps excédant les limites de la vie individuelle. Il présentera notamment les différentes étapes que dut franchir le témoignage de déportation de Varsham Altounian, c'était mon père, survivant du génocide arménien, jusqu'à sa parution en 2009, en facsimilé dans une édition universitaire, c'est le livre qui circule, au sein d'un ensemble d'élaborations dont il fut le référent pour 7 récipiendaires, son traducteur, sa fille, moi, et 5 psychanalystes à l'écoute des traumas de l'histoire. Le facteur temporel instaurant donc une pluralité de liens, non seulement verticaux, mais également horizontaux, la constitution de ce regroupement confirme d'une part ce que soutient un des auteurs analysant ce récit, le psychanalyste René Caes, lorsqu'il écrit « Pour se penser, la catastrophe doit être échoïsée, amplifiée, susciter témoignages et commentaires, convoquer de multiples versions. » D'autre part, l'incipit de cet ouvrage, co-signé par une vivante et un mort selon les termes d'un de ses commentateurs, attire ainsi l'attention du lecteur sur sa genèse transgénérationnelle. L'incipit dit « Cet ouvrage, dont le contenu pourrait s'intituler « Le génocide dans le journal d'un père et dans la mémoire de sa fille », n'a pu se constituer que par un travail d'écriture qui a nécessité 2 générations et plusieurs voix pour voir le jour et s'inscrire dans ses pages. Nous avons retranscrit cette écriture en 2 temps en l'attribuant à Varsham et Janine Altounian. J'expliquerai au cours de mon exposé d'où vient cet auteur bicéphale. Nous verrons dans quelles circonstances cette co-signature, pour le moins troublante, s'imposa à une telle réception polyphonique qui se propose de rendre compte en et par ce rassemblement de la transmission d'un héritage traumatique. Je retracerai donc, c'est pas arrangé.
Non, et ça ne s'arrangera pas.
Bien, bah alors à ce moment-là, je vais faire circuler plusieurs... c'est pour ça que j'avais apporté, parce que il y a 3 choses à voir dans cet ouvrage. Il y a évidemment le facsimilé dont je parlerai. Il y a aussi les cartes des actes de déportation, la carte de déportation de Varsham Altounian.
Et marque-pages.
Voilà, je vous remercie. Ça... Et ça, et le facsimilé, de toute façon, on le voit, il est dans...
Il est au milieu.
Alors, je retracerai donc un itinéraire emblématique où, à partir d'un écrit laissé ignoré au fin fond d'une armoire, le témoignage d'une expérience traumatique déboutant à Boursa. Alors, j'aurais voulu vous montrer où était Boursa, mais je suis en panne. Donc, à Boursa, petite ville d'Asie mineure, c'est une ville qui est à peu près à 150 km au sud. Vous la voyez dans les différentes cartes que je fais passer. Je peux même faire passer encore un autre livre. J'en ai apporté plusieurs. Là où on voit bien Boursa, c'est dans la carte qu'a élaborée le traducteur, puisqu'il a, sur cette carte-là, il a reconstitué l'itinéraire du déporté. Donc, le témoignage d'une expérience traumatique débutant à Boursa, petite ville d'Asie mineure, un mercredi 10 août 1915. Alors, comment ce témoignage est passé par l'épreuve de sa traduction, de son élaboration subjective par un héritier, à savoir une héritière, moi, pour se transmettre et aboutir quasi un siècle plus tard à une lisibilité partagée au sein de cette ultime réception collective. Alors, pour introduire mon propos, je citerai le philosophe Walter Benjamin, qui, se référant à la transmission d'une catastrophe historique, nomme expérience ce qui ne peut se transmettre à l'héritier d'un meurtre de masse en fait de richesse et de sens pour sa propre vie. Et à propos des revenants de la Grande Guerre, qui furent réduits au silence, il rappelle que le cours de l'expérience a chuté, et ce dans une génération qui fit en 1914-1918 l'une des expériences les plus effroyables de l'histoire universelle. N'a-t-on pas alors constaté que les gens revenaient muets du champ de bataille, non pas plus riches, mais plus pauvres en expériences communicables. Fin de citation. Alors, ces mots du philosophe s'appliquent effectivement au manque de parole entre mon père et moi sur ce que put être son expérience d'un génocide perpétré justement sur le versant oriental de la guerre de 1914 et dont le compte-rendu qu'il en fit s'intitule précisément 10 août 1915, mercredi, tout ce que j'ai enduré des années 1915 à 1919. Ceux qui ont le livre en main et qui peuvent voir le fac-similé, je parlerai évidemment de l'écriture de ce manuscrit, mais vous pouvez déchiffrer à la première ligne 10 août 1915. Par contre, le contenu même de ce journal illustre comment, indépendamment des indubitables facteurs de chance que dut rencontrer celui qui put survivre, son aptitude à faire face aux épreuves mortelles dut dépendre davantage de la résistance d'un attachement à son héritage culturel et psychique qu'à celle d'investir de nostalgie ses souffrances, ses pertes et de haine impuissante ses bourreaux. Ce matin, il y avait quelqu'un qui demandait s'il y avait du ressentiment. Dans ma famille, il n'y avait aucun ressentiment. Ce que j'ai emmagasiné, c'est qu'il fallait s'en sortir. S'en sortir, c'est-à-dire venir vous parler, par exemple, comme je parle à d'autres personnes et souvent. Il fallait travailler pour s'inscrire en France et dire ce qui nous était arrivé. Le ressentiment, non, ça c'était du luxe, on n'avait pas le temps de s'occuper de ça. Aussi, cette inébranlable fidélité à soi lui enjoignit-elle sans doute également de devenir le chroniqueur d'un témoignage pour se soustraire à l'oubli tout autant qu'au danger du souvenir. C'est en fait le destin posthume de ce journal que va évoquer le présent exposé, dont le titre pourrait s'énoncer « Exhumer une trace, faire entendre une voix, requiert plusieurs générations, susceptibles de l'inscrire dans une culture autre, apparemment étrangère à l'événement traumatique. » Ce manuscrit témoigne de ce qui soutient l'aptitude à résister à la menace de mort, bien évidemment dans l'infime mesure où l'entreprise exterminatrice montre quelque négligence dans son exécution. Le sens qu'il restaure, celui notamment d'un attachement irréductible du sujet à son héritage et à son identité, renvoie certes à la scène princeps de l'inhumation du père, c'est-à-dire ce grand-père, que je vais lire, mais surtout aux avatars que connut à la génération suivante cette mise en terre du père qui appela plus tard son expression symbolique dans la mise en mots du fils. Cette restauration sera en somme celle des liens affectifs, culturels, politiques qui dans une transmission unissent les générations entre elles. Dans l'essai précédemment cité de Benjamin, « Expérience et pauvreté », le philosophe dénonçait la rupture, consécutive à la Grande Guerre, de cette transmission de l'expérience. Or, pour montrer ce que serait au contraire son maintien d'une génération à l'autre, il commence par raconter cette fable que notre cher La Fontaine nous avait déjà apprise sur les bancs de l'école. Benjamin écrit. Dans nos manuels de lecture figurait la fable du vieil homme qui, sur son lit de mort, fait croire à ses enfants qu'un trésor est caché dans sa vigne. Ils n'ont qu'à chercher. Les enfants creusent, mais nulle place de trésor. Quand vient l'automne, cependant, la vigne donne comme aucune autre dans tout le pays. Ils comprennent alors que leur père a voulu leur léguer le fruit de son expérience. La vraie richesse n'est pas dans l'or, mais dans le travail. Où les mourants prononcent-ils encore des paroles impérissables qui se transmettent de génération en génération comme un anneau ancestral ? Question, fin de citation. S'il faut mettre en lien le motif du travail avec celui de la transmission que Benjamin spécifie ici prioritairement par une transmission qui prône la valeur du travail humain, c'est bien sûr parce que, au-delà de l'extermination des hommes, les régimes totalitaires visent l'anéantissement de ce qu'a produit la créativité de ce travail et la ruine des attachements des hommes entre eux et à leur histoire. Les nazis n'inscrivirent-ils pas aux portes de leur camp l'insulte de cette antiphrase profanatrice et criminelle « Arbeit macht frei », le travail rend libre. Il convient également de rapprocher ces deux motifs de la transmission et du travail, parce que hériter pour vouloir témoigner réclame la prise en charge d'un travail. Hériter se fait par un travail. Ces vers de Goethe, cités en adage par Freud, comme modalité de transmission psychique, le disent admirablement. Ce que tu as hérité de tes pères, acquiers-le afin de le posséder. Ce qu'on n'utilise pas est un pesant fardeau. Donc, à la question en quoi consiste la résistance d'un héritier de survivant, je répondrai. Elle est un travail d'appropriation de son héritage, le rendant capable de l'inscrire dans le monde des vivants, dans le monde d'une culture apparemment étrangère au trauma. Mon deuxième auteur sera un écrivain allemand, qui vient d'ailleurs illustrer ma précédente hypothèse par rapport à l'attachement. Dans son Histoire d'un Allemand, Sebastian Haffner raconte les événements qu'il vécut en Allemagne de 1914 à 1933. Alors que ses amis, juristes comme lui, purent s'accommoder de la terreur nazie et de leur propre peur, l'emprise du nazisme sur la vie privée de Sebastian Haffner finit par ne devenir à tel point dévastatrice qu'il ne put que quitter son pays. Il ne se ressentit pas a priori persécuté en personne par le régime politique, mais tous les investissements donnant sens à sa vie lui devinrent peu à peu interdits. Le témoignage de son récit incline en effet à penser qu'à la différence de ses collègues, ce qui lui rendit impossible toute forme d'adhésion au national-socialisme et le contraignit à émigrer, tint à l'attachement inconditionnel qu'il nourrissait pour la culture allemande transmise par son père, démocrate intègre, à la relation faite de respect mais aussi d'autonomie qu'il entretenait avec son père et sa famille. Désavouer les valeurs de son appartenance culturelle et familiale fut impensable pour Haffner. Or, un des effets des idéologies totalitaires ou de l'extermination sous la terreur est précisément d'induire chez les hommes un empêchement à aimer les objets de leur tradition, soit ce que cette tradition a cultivé et créé pendant des générations jusqu'à eux. C'est de censurer et châtrer toute transmission, si bien qu'aimer leur devient éminemment coûteux et mortellement dangereux. Donc, après cette introduction générale, je vais vous raconter l'histoire de ce témoignage, son destin. Alors, d'abord, un petit extrait. Comme je suis obligée d'élaguer, le rythme est très haché. Vous allez voir apparaître dans ce récit l'huile de rose. Alors, pourquoi l'huile de rose ? Parce que pendant la déportation, pour pouvoir vivre quelques heures de plus, il fallait pouvoir échanger ce qu'on avait d'argent ou de... et l'huile de rose, c'était ce que fabriquait ce grand-père, qui était épicier, qui cultivait des roses, qui était en même temps, qui faisait de l'essence de rose. Et l'huile de rose a pu être échangée jusqu'au moment où ils n'ont plus eu d'argent. Donc, un petit extrait. À Amman, nous avons constaté que les gens mangeaient des sauterelles, des mourants, des morts partout. Mon père était très malade. Bientôt, il n'y a plus eu de sauterelles, car tout le monde en avait mangé. Et la déportation n'en finissait pas. Ma mère a dit, « Notre malade est très gravement atteint et partira la prochaine fois. »« Vous osez parler ?» a dit un gendarme et il a frappé à la tête de mon père. Ma mère suppliait qu'on la frappe, elle, et qu'on laisse mon père. Sur ce, le gendarme a frappé ma mère. 6 jours plus tard, le jour de la mort de mon père, ils ont de nouveau déporté. Je ne vous ai pas dit que ce garçon avait 14 ans. Et je voulais aussi vous dire que, entre la phrase « Sur ce, le gendarme a frappé ma mère », 6 jours plus tard, le jour de la mort de mon père, ils ont de nouveau déporté, le traducteur fait remarquer que le narrateur ne dit rien de l'agonie du père. Il frappait notre mère. Nous deux frères, nous pleurions. Donc, ce garçon de 14 ans et l'autre à 10 ans peut-être. Nous ne pouvions rien faire car ils étaient comme une meute de chiens. Il disait à ma mère, ton malade est mort. Et ma mère, nous partirons quand nous aurons enterré le mort. Il répliquait, non, vous ferez comme les autres. Les autres abandonnaient les morts et la nuit, les chacals les dévoraient. J'ai vu que ça n'allait pas et qu'il fallait faire quelque chose. J'ai pris un flacon de 75 dirhams, je l'ai rempli d'huile de rose et je suis allée voir le chef des gendarmes de la déportation. Nous sommes restés encore un jour, nous avons creusé une fosse et nous avons payé 5 piastres au curé. Ainsi, nous avons enterré mon père. 15 jours après la déportation a recommencé. Il brûlait tout. Je me suis cachée là, car j'ai su que plus loin, il tuait les gens. On avait très faim et soif. J'ai vu que nous allions mourir de faim. À Raqqa, alors tout ça se trouve sur la carte que je ne peux pas vous montrer, on nous a montré une auberge. Qu'avons-nous vu ? Les gens mouraient partout de faim. On ne pouvait pas rester à l'intérieur. Tout sentait la pourriture. On n'avait pas d'argent, c'est pourquoi on a commencé à manger des herbes. On a vu qu'on allait mourir, on faisait à peine 2 pas et on tombait par terre. Ma mère a réfléchi, moi pour mourir, je mourrai, vous, il ne le faut pas. C'est ainsi qu'elle nous a donné, nous deux, aux Arabes. Bon, c'est ainsi que je suis née donc. Alors, je vais sauter pour vous dire à quel moment j'ai pu témoigner. J'ai pu publier ce texte. Si ce manuscrit contribua pour moi à une subjectivation aussi bien de mon histoire que de celle après coup du narrateur, son destin se joua en fait au moment où un événement politique parisien de septembre 81, la prise d'otage au consulat de Turquie, vint réveiller en moi la réminiscence d'un souvenir d'enfance. Avant de décrire les différents moments d'épiphanie de ce manuscrit, je m'arrêterai d'abord sur cette réminiscence qui décida de sa première publication. Ce fut la rencontre d'un fait objectif d'actualité, donc septembre 81, prise d'otage au consulat de Turquie, avec la trace psychique d'une parole autrefois entendue qui vint confirmer la temporalité transgénérationnelle des effets de cette parole, c'est-à-dire l'influence capitale qu'exerce sur le processus de transmission d'un héritage, aussi bien l'actualité d'événements contemporains qu'une conception féconde de l'inconscient, selon laquelle rien ne peut être aboli, écrit René Caës, qui n'apparaisse quelques générations après comme signe même de ce qui n'a pu être transmis dans l'ordre symbolique. La lettre parvient toujours à son destinataire, même s'il n'a pas été constitué comme tel par le destinateur. La trace suit son chemin. On disait ce matin qu'il s'agissait surtout de laisser des traces. La trace suit son chemin à travers les autres jusqu'à ce qu'un destinataire se reconnaisse comme tel. En effet, lorsque cet acte dit terroriste éclata dans l'espace politique parisien, amorçant en tant qu'acte de résistance ce qu'on a appelé le terrorisme publicitaire, lorsqu'il rompit dans ce qui était devenu mon pays, un silence de plus d'un demi-siècle sur le génocide arménien et interrogea alors un silence levé en moi, je sentis subitement que mon père aurait approuvé cet acte s'il avait été accompli de son vivant. Je retrouvais notamment dans ma mémoire diffuse le souvenir très lointain du plaisir de résistant avec lequel cet homme racontait à ses amis la prise en 1896 de la banque ottomane à Constantinople. Les Anglais et les Français avaient beaucoup d'intérêt à la banque ottomane et par rapport aux pogroms qui ont comme signe avant-coureur des génocides exterminé à peu près 300 000 Arméniens, certains Arméniens ont pris d'assaut la banque ottomane. Ça n'a servi à rien. Ils le faisaient pour que l'Europe se réveille, mais ça n'a servi à rien. Enfin, mon père racontait ça avec plaisir. M'identifiant spontanément à la satisfaction avec laquelle il évoquait un exploit dont il était fier, je me sentis alors le droit de sortir de sa clandestinité protectrice cette relique que j'avais découverte. Une semblable superposition temporelle d'un événement de 1981, réveillant le souvenir d'un récit paternel qui commémorait un événement de 1896, confirme le rendez-vous tacite dont Benjamin pose l'existence entre les générations passées et la nôtre. Dans ses réflexions sur le concept d'histoire, il développe notamment l'idée parente de la conception freudienne de l'après-coup, selon laquelle le temps de la vie et le développement de l'être humain ne font que déployer, mettre au jour des points nodaux du passé qui contenaient déjà en eux tous ces éléments existants en germe. Les voix auxquelles nous prêtons l'oreille, écrit Benjamin, n'apporte-t-elle pas un écho de voix désormais éteintes? S'il en est ainsi, alors il existe un rendez-vous tacite entre les générations passées et la nôtre. À nous, comme à chaque génération précédente, fut accordée une faible force messianique sur laquelle le passé fait valoir une prétention. Alors je vais m'arrêter là puisque je n'ai plus le temps. Dans la suite de l'exposé, j'expliquais que ce texte est d'abord paru au temps moderne, en 82. Ensuite, je vais vous montrer la couverture parce que ça vaut la peine. Alors ensuite, il a été repris aux belles lettres. Et je dois vous dire que mon livre des belles lettres reproduit comme témoignage de mon amour de l'école, un vers de Corneille, de sa tragédie Nicomède. La princesse Léodice, princesse arménienne, dit « Je ne veux point régner sur votre Bithynie, ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie. » Donc ce texte a été repris en 90 dans ce livre. Et puis récemment, comme à l'occasion d'une semaine de travail à Rome, une psychanalyste italienne a publié un petit livre où elle avait fait traduire le texte de déportation de mon père, mon texte à moi qui lui avait fait connaître son existence et un texte à elle. Et lorsque j'ai reçu ce petit livre italien, j'avais signé évidemment le contrat par Internet. j'ai constaté avec stupeur que l'auteur s'appelait Janine Evarla Matounian. Ça m'a complètement épouvantée. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On ne m'a pas prévenue. Et quand j'ai lu le sous-titre qui s'appelait « Le génocide arménien dans le journal d'un père et la mémoire d'une fille », alors je me suis dit, ça a du sens, ce titre bicéphale, cet auteur bicéphale. Je vais donc publier la même chose en France. Et ça a donné lieu à ce livre collectif. Et je dirais donc, si vous voulez, dans ce parcours, l'événement politique de 81 a déclenché tout ce travail, mais ce qui lui a donné son expansion, c'est des institutions à caractère démocratique. Les temps modernes ont publié ce texte parce que il y avait eu cet acte terroriste, mais enfin ils l'ont publié. Je n'étais ni universitaire ni connue. Certes, ils avaient accepté déjà des articles de moi. Et il y a dans mon livre la lettre que j'avais envoyée à Simone de Beauvoir lors de mon premier texte. Simone de Beauvoir représentait pour moi mes institutrices, et mes institutrices dont je dis très souvent qu'elles ne connaissaient pas du tout ce que était mon histoire, mais enfin l'essentiel c'est qu'elles me donnaient une place à l'école, une place où il fallait apprendre. Et la troisième intervention de type républicain, ça a été quand c'est l'éditeur lui-même des PUF, qui actuellement est mort, hélas, Michel Préjean, qui lui a eu l'idée, il m'a proposé de publier le texte de mon père en facsimilé. Moi, j'aurais jamais eu cette idée-là. J'aurais pas osé, même si j'avais eu l'idée, j'aurais pas osé la demander. Donc, mon travail, si vous voulez, est étroitement lié aux politiques, aux institutions. Ça, c'est incontestable. Je pourrais davantage développer ça, mais non, je m'arrête là.
Mais peut-être que ça va revenir dans la discussion, ce point dont vous souhaitiez ce matin discuter avec André Rousseau, à savoir le rapport aux politiques et au contexte politique.
Alors, je m'excuse, c'est un texte écrit, mais c'est vrai que je ne peux parler de ces choses-là que quand j'ai écrit le texte. Par ailleurs, après, pour la discussion, je parle plus librement, évidemment.
Denis, peut-être tu as introduit la discussion. On fait juste une petite discussion avant de passer à la deuxième séquence. Donc, je propose qu'on ait 10 minutes d'échange sur cette communication, en lien avec ce qu'on a entendu ce matin, d'ailleurs.
Oui, non, ça m'intéresse d'autant plus que ça rejoint un questionnement qui double que je porte depuis quelques années. Le premier sur les croisements transdisciplinaires sur la mémoire, et je voudrais vous interroger là-dessus. Et le deuxième sur les conditions de la mise en récit mémoriel. Une expression qui m'est propre et un peu chère, mais sur le fait qu'il y a des conditions pour une mise en récit mémoriel individuelle, vous en parlez beaucoup, mais aussi pour une mise en récit collective. Comment on passe de la mémoire individuelle à la mémoire sociale, quelles sont les conditions qui puissent être réunies pour passer de l'un à l'autre, qu'on l'appelle social ou collectif, c'est vraiment pas le débat.
Cette question-là, il faut la demander à un sociologue. Moi, je peux
pas. On verra. On verra. Donc, le premier, alors, on va dire simplement, pour reprendre ce que disiez, je m'attacherai à votre approche sur le psyché, l'individu. Je vous dirais, en vous entendant, j'entends aussi le questionnement, par exemple, d'une amie psychanalyste freudienne, Lasnik, qui nous dit mémoire traumatique, c'est bien gentil, tu en as peut-être parlé tout à l'heure, je ne sais plus. Ouais, elle mélange les deux, attends.
Les deux, c'est-à-dire quoi et quoi?
Non. Lacanienne, tu me corriges?
Oui,
on la laisse. Alors. Non, je passe, peu importe. Mais mon problème, c'est sur la. Quand on parlait de mémoire traumatique, c'est vrai qu'il y a la question d'utilisation de, éventuellement métaphorique du terme, mais sur le fait que parler de mémoire traumatique est problématique dans la mesure où il ne peut y avoir de place pour la mémoire qu'à partir du moment où le traumatisme est déjà dépassé, et donc à partir du moment où on est en on a refoulé, dans la mesure où le traumatisme, c'est la présence de l'événement passé comme présent et prenant tout l'espace effectif de la personne, et que donc il peut y avoir de place pour la mémoire qu'à partir du moment où il y a mécanisme de refoulement. Donc ça, c'était une première question. D'ailleurs, d'autant plus que j'interrogerai aussi dans la mesure où des neuroscientifiques répondront « ben non, pas du tout, ça ne fonctionne pas comme ça » parce que quand on travaille un petit peu avec l'imagerie médicale, on s'aperçoit que ce type de démarche c'est pas qu'elle n'est pas acceptable, c'est-à-dire elle est contredite par ce type d'approche. Donc j'aime bien ce dialogue entre les neuroscientifiques et les psys, et j'aurais bien voulu savoir où vous vous trouviez. Autre approche.
Je ne peux pas vous interrompre.
Non, non. Vous allez voir, vous prenez tout, vous notez, vous verrez.
Oui, mais moi je fais l'horloge. Hein.
Sur la résilience.
Donc à 15h30, on arrête.
Sur la résilience, dans la mesure où, finalement, en vous écoutant, même si le terme n'apparaît pas, vous fournissez toute une série de facteurs de reconstruction, dont appelleront la résilience, peu importe, en tout cas, j'ai entendu héritage, j'ai entendu intégration, j'ai entendu transmission.
Là, je vous interromps parce que voilà. Ma famille et moi, nous avions ainsi bénéficié de plusieurs privilèges qui m'avaient permis d'exhumer une trace et de la faire parler. Mon grand-père assassiné avait pu, grâce à la chance, à la témérité de sa femme bravant les tueurs pour respecter un rituel de l'humanité et à la perspicacité de son fils adolescent, recevoir une sépulture et une prière. Ce fils avait eu le courage de consigner scrupuleusement l'histoire de la déportation. J'avais bénéficié d'une actualité qui m'autorisait à la publier et de l'instruction qui me permettait de le faire.
Oui, non, c'est pour ça que je parlais de conditions résilientes.
Voilà.
Mais donc ensuite, sur la chronologie, évidemment, nous interroge, puisque vous nous parlez de la nécessité d'une distance et éventuellement d'une transmission générationnelle pour permettre cette prise de parole ou cette prise de conscience. Et cette mise à distance-là doit interroger, puisque vous évoquez le fait que pour un certain nombre d'auteurs ont attendu quelques années avant de parler de leur expérience qu'on qualifierait là d'expérience traumatique. Sauf que ce n'est pas nécessairement conforté et confirmé par ce qu'on sait de cette production-là. Quand on l'analyse de façon systématique, on peut prendre des exemples allant dans votre sens, on peut prendre des exemples allant dans des sens contraires. Il y a eu des hypothèses qui ont été avancées et là, bon, je suis plus dubitatif, en l'occurrence, sur le fait que c'est pas qu'on refusait la prise de parole, c'est qu'on n'était pas entendu.
Ah oui,
c'est la thématique Viviorca, dont je ne suis pas totalement convaincu, surtout pour les premières années de la guerre. Il y a d'autres qui donneront d'autres réponses. Alors, vous donnez une réponse qui est celle de la nécessité de la transmission générationnelle. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'on retrouve, dans des études de psychologues américains assez récentes, cette idée qu'après un événement fort, traumatique, là, c'est là où il faudrait peut-être trouver les termes adéquats, il y a des sortes de rythmes qu'ils arrivent à déterminer. Qui sont des rythmes de 25 ans qui, comme par hasard, sont des rythmes correspondant à transmission générationnelle, et qu'on trouve tous les 25 ans comme ça, après l'événement, une pantée. Alors, moi, j'ai assisté à ce type de présentation, peut-être, mais en même temps, je pense qu'il y a une forte autonomie de la singularité de ces temporalités-là, de cette temporalité de mémorisation. et qui ne correspondent pas nécessairement à des rythmes singuliers. Si on faisait par exemple une comparaison des mémoires de la Shoah, on aurait des chronologies qui ne seraient pas du même ordre. Un jour peut-être on fera cette étude comparative, même si on a des mécanismes de globalisation et de standardisation à partir d'une certaine période. Bon voilà, j'aurais peut-être d'autres...
Alors je réponds d'abord à votre première question.
Mais rapidement, parce que c'est vrai qu'on a encore deux communications à la suite et une discussion générale à avoir. Donc,
bon, alors je vais dire.
Non, c'est parce que c'est Denis qui a été un peu trop long.
C'est-à-dire que, pour revenir à ce que disait votre psychologue, votre psychanalyste, pour refouler, c'est-à-dire mettre à la porte, il faut mettre quelque chose à l'intérieur.
Il y a d'autres questions après les trois.
Vous avez qu'à me dire après les trois.
Excusez-moi.
Alors donc, pour refouler, pour reprendre son vocabulaire, il faut mettre à l'extérieur, comme dit Freud dans un de ses textes, mais pour pouvoir le faire, il faut faire venir à l'intérieur. Alors moi je pense, si vous voulez, que dans ce que je préconise, il faut acquérir la culture de l'autre. Et au moment où on acquiert la culture de l'autre, la sienne, on ne l'oublie pas, mais on la met de côté. Et c'est cette acquisition de la culture de l'autre, c'est-à-dire l'école, les institutions, les plaisirs, je ne sais pas, moi par exemple, aimer Jacques Brel ou aimer Mozart, ça ne se faisait pas forcément dans ma famille si j'étais restée à Boursa. En acquérant la culture de l'autre ou le lit allemand, hein, eh bien à ce moment-là, sa propre culture, ce lieu endolori, épouvantable, qu'on n'ose pas regarder, il est toujours là, mais il est mis un peu à distance. Et cette culture acquise permet ensuite de traduire celle qui a été exterminée. C'est ça ce que je développe, si vous voulez. Ce n'est pas ni de l'oubli, ce n'est pas du refoulement, c'est de la distance par rapport à quelque chose d'autre qu'on apprend également à aimer et après on fait des traductions. Bon, alors deuxièmement, puisque je suis obligée d'aller vite, vous avez parlé des écrivains. Mais moi, je parlais, si vous voulez, justement, moi, mon travail, ça porte sur les descendants. Je pense que je ne suis pas du tout optimiste. Moi, je pense que les gens qui ont vécu ces choses-là ne peuvent pas en parler. Ou alors, il faut qu'ils aient une très, très grande culture, une culture jusqu'au bout des doigts pour arriver vers la fin de leur vie à en parler. Alors, donc, il faut ce temps. Maintenant, si ils en parlent tout de suite comme Primo Levi, bah, évidemment, personne ne les entend. C'est-à-dire, le fait qu'ils ne peuvent pas parler et que les autres ne peuvent pas entendre, c'est du même temps où ne peut fonctionner que le silence. Et évidemment, la génération qui naît ensuite, du fait qu'elle a eu le temps d'acquérir, j'allais dire, d'autres amours que ce bain traumatique, lui permet de traduire un petit peu ce qui s'est passé. Vous avez dit d'autres choses aussi, les neurologues, les neurosciences, ça ne m'a pas intéressée, je ne peux pas vous répondre.
Ouais, simplement une petite remarque, c'est que, si je peux me permettre, attention avant d'arriver aux conclusions sur le silence, sur l'absence, etc. Une analyse systématique des productions par les acteurs eux-mêmes, juste après la guerre, après des traumatismes forts, vous verrez que ça serait en contradiction avec des affirmations trop systématiques, comme celles que vous avancez sur le silence, sur la non-écoute, sur je ne sais quoi. Je vous assure que quand on voit ce qui est produit, eh ben, pour des gens qui ne peuvent pas parler, ils parlent beaucoup. Hein. Je vous assure que...
Non, mais attendez.
Et heureusement, d'ailleurs.
D'abord, moi, je raconte ce qui m'est arrivé.
Non, bien sûr.
Je dis pas que c'est une loi universelle.
Vous voulez poser une question.
Et d'autre part, vous savez, le ressassement, c'est la même chose que le silence, parce que j'ai aussi vécu dans mon enfance, qui n'arrêtait pas de parler de ça. Mon père n'en parlait pas, mais je côtoyais des gens qui n'arrêtaient pas de parler de ça. Mais c'est une parole inefficace, qui ne porte pas. Mais c'est vrai que moi, je parle de mon itinéraire. Je ne sais pas, vous voyez.
Michael.
J'ai juste une petite, toute petite question d'information, parce que vous parlez, vous utilisez le terme de déportation, il y a aussi une déportation, etc. Quel est le mot arménien ou turc, etc. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de codifié? Parce que moi, ça me... ça m'interroge.
Vous voulez dire il y a un mot qui doit être du turc, puisque mes parents étaient turcophones. Je dis en parenthèse que ce manuscrit est écrit en écriture en alphabet arménien, mais en langue turque, dans la mesure où un grand nombre d'Arméniens étaient turcophones. Mais pour écrire, ils n'écriraient pas en turc, ces Arméniens-là, mais ils avaient été suffisamment à l'école pour écrire en alphabet arménien. Alors, donc, dans un terme que employait ma grand-mère, celle que j'ai connue, parce que celle du récit, je ne l'ai pas connue, elle disait « aksol », qui dit « déportation ».
Oui.
Non.
Henri, et après,
un épisode que vous avez raconté, à propos de l'attentat contre l'ambassade, vous avez dit, c'est votre père, il a retrouvé son plaisir de résister.
Oui.
C'est le mot plaisir qui m'a...
Oui. D'ailleurs, les psychanalystes disent que c'est à cause de ça. Les psychanalystes disent que c'est le plaisir qui fait marcher les choses.
Voilà. Alors, juste ce matin, j'ai évoqué la question de la vengeance. Et je m'étais posé la question pourquoi, sous cette forme-là, pourquoi si peu d'actes de vengeance après un événement comme le Shoah. Et je l'avais posé dans le cadre d'un colloque devant des psychanalystes, lacaniens, l'association à laquelle appartient Kasny. Et la réponse d'un des psychanalystes, c'était parce que lorsqu'on est traumatisé, on n'érotise pas. Donc je voulais avoir votre...
Bah,
ça veut dire qu'on ne peut plus avoir une quelconque puissance sur la mort de l'autre.
Je vous apporter de l'eau à mon moulin, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai senti à ce moment-là, en retrouvant ce souvenir, que mon père aurait été content de cet acte-là. Et c'est le plaisir du père auquel je m'identifiais qui m'a fait publier ce texte. Effectivement, c'était une forme d'érotisation. Oui, on n'érotise pas. C'est juste. Je suis assez d'accord. Mais pourquoi j'ai pensé ça du père? C'est parce que je me suis rappelé, effectivement, quand il racontait la prise de la banque ottomane. C'était un plaisir. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait de l'ordre de la vengeance. Hein. C'est de l'ordre de la résistance. On existe quand même.
Mais c'est le mot plaisir que vous avez.
Oui, absolument. Je suis tout à fait
d'accord. Éprouver du plaisir à la souffrance de celui qui vous a fait du mal. Donc, ça veut dire, je le dis avec mes mots, mais ça veut dire qu'il y a toujours une distinction entre soi et l'autre.
Oui,
c'est que l'autre est bien identifié, donc c'est pas ce qui se passe dans une situation traumatique d'un point de vue...
Je ne dirais pas un plaisir à la souffrance de l'autre. Je ne dirais pas du tout. C'est un plaisir à dire qu'on existe. Parce qu'un plaisir à la souffrance de l'autre, ça c'est une autre affaire. Moi, j'avoue que c'est pas mon...
Donc il y a bien l'un et l'autre. Il y a bien soi et l'autre.
Ah oui, il y a soi et l'autre, oui. Il y a soi et l'autre, oui. J'aimerais, si j'ai le temps, raconter une anecdote là, de psychanalyste. J'ai participé à un entretien qu'un psychanalyste a organisé pour sa revue qui s'appelait « Pourquoi le fanatisme ?». Et il fallait que je sois dans l'entretien. J'ai dit que je ne comprenais pas pourquoi. Et alors on m'a dit, puisque je n'étais pas sociologue ni politologue, alors on m'a dit « si, parce que vos écrits sont contre le fanatisme ». Bon, d'accord. Je participe à l'entretien et un grand psychanalyste fait une distinction entre les fanatiques de type psychotique qui passent à l'acte, qui font des actes terroristes, et les fanatiques simplement névrosés qui peuvent écrire des propos antisémites mais qui ne tueront aucun juif, par exemple. Alors j'ai dit, mais écoutez, moi ça me pose un problème parce que je n'ai pu publier le texte de mon père que parce que des jeunes gens arméniens qui sans doute étaient entraînés au Liban ont commis cet acte. Et donc, c'était forcément des psychotiques. Moi, j'aurais jamais pris ça. J'aurais pas pris les armes. Alors, quelle est cette question que je n'ai pu sortir le texte de mon père que grâce à des fanatiques de type psychotique? Alors, évidemment, là, ils n'ont pas pu me répondre. Et quand on m'a donné le texte à lire, puisque avant de publier un texte, on le soumet aux auteurs, le mot psychotique avait sauté. Alors j'ai dit, écoutez, moi, mon raisonnement ne tient pas si vous ne mettez pas le mot psychotique. Il a dit psychotique, il faut le maintenir. Et le mot psychotique est revenu quand même. Donc c'est une question, ça. Si cet acte n'avait pas eu lieu, on n'aurait pas parlé des Arméniens dans les médias en 1981. J'aurais pas publié le texte de mon père. J'aurais eu trop peur. Puis personne ne l'aurait pris, il aurait été galvaudé, ça n'aurait rien donné. Et donc c'est un acte de violence. Il n'y a pas eu de mort, mais on en a parlé. Ça pose question.
Peut-être qu'on va clore cette partie de la discussion passer donc à la deuxième partie de cette journée, en quelque sorte. Bon, une des interrogations à l'origine de cette journée, je l'ai dit ce matin, c'était aussi, au fond, quelle est la pertinence de la notion de traumatisme appliquée au collectif. Alors, voilà. Avec, évidemment, la question de l'éventuelle articulation de l'histoire individuelle et de l'histoire collective, ou du psychique et du social, pour dire les choses autrement. Donc, nous allons... est-ce que vous souhaitez faire une pause de 5 minutes, là, pour bouger, ou pas?
Ce
ne sera jamais 5 minutes, donc on enchaîne. Et donc là, maintenant, on passe, je veux dire, au point de vue d'un sociologue, on va dire. Voilà.
Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Ce matin, donc, Sandrine faisait un appel à la superficialité. Donc, si j'ai bien compris, mon défi, c'est d'être superficiel. Je serai, je pense, je m'en excuse. Alors, quelques mots juste de mon intérêt pour la question du traumatisme et du décalage de mon intervention, sans doute, par rapport aux interventions précédentes. Il s'agissait pour moi de prendre le traumatisme moins comme un concept que comme un objet, sachant par ailleurs qu'il ne s'agit pas de l'objet principal de mon travail, qui porte sur l'institutionnalisation de la catégorie de victime en France et sur ses usages dans l'action collective, dans les mouvements sociaux, notamment les mouvements les associations de victimes. Donc c'est pas mon objet principal, et malgré tout j'ai été amené, c'est une sorte d'objet boomerang, c'est-à-dire à chaque fois que je cherchais à m'en séparer, il revenait. Donc j'ai été amené d'abord à travailler sur l'importation en France de ce diagnostic, un travail donc qui a été prolongé dans le cadre de deux programmes collectifs de recherche qui ont abouti finalement à l'ouvrage de Fassin et Rachman, donc l'empire du traumatisme. Question du traumatisme qui est revenue également sur le terrain principal de ma thèse, qui portait sur l'explosion de l'usine Azadef à Toulouse, et donc terrain sur lequel on constatait de multiples usages de la catégorie de traumatisme. Et enfin, plus récemment, donc j'ai commencé à travailler avec François Bouton sur l'importation du langage du traumatisme dans l'espace combattant, autour notamment de la question de la névrose de la guerre d'Algérie. Là, c'est un travail qui est bredouillant pour l'instant. Donc, trois raisons de mon intérêt pour le traumatisme. Première raison, c'est une raison empirique. Je m'intéressais au travail des promoteurs de la catégorie de victimes en France à partir des années 80, c'est-à-dire fonctionnaires du bureau des victimes au ministère de la Justice, secrétariat d'État aux droits des victimes, dirigeants de l'Institut national d'aide aux victimes, etc. Donc, des acteurs qui, à partir de la fin des années 80, vont chercher à rendre plausible l'existence de ce groupe, les victimes, en général, c'est-à-dire des groupes qui partageraient à peu près les mêmes problèmes et auxquels on pourrait apporter à peu près les mêmes solutions, notamment en termes de politique publique. Une difficulté pour ces acteurs à donner consistance ou à donner chair à ce regroupement. C'est-à-dire, on perçoit bien que entre des victimes d'infractions, des victimes
des victimes de crimes, de catastrophes naturelles, etc., le regroupement ne va pas de soi. Et de ce fait, le traumatisme, c'est mon premier intérêt pour le traumatisme, c'est celui-là, le traumatisme va fonctionner à partir de la fin des années 80 comme l'instrument le plus efficace de mise en équivalence de situations très différentes. C'est-à-dire qu'à la fois, il va conférer à ce regroupement une objectivité médicale, et par ailleurs, donc, le traumatisme est réputé commun à toutes les victimes, quelle que soit l'origine du drame, quelle que soit la qualification juridique de la situation. Donc va s'enraciner la conviction autour du traumatisme qu'existe une cause des victimes à défendre en général. Donc ça, c'est mon premier intérêt. Mon deuxième intérêt pour le traumatisme est genre plus théorique, disons. C'est-à-dire que quand on commence à travailler sur la diffusion d'un instrument psychologique d'interprétation du malheur, vient très rapidement à l'esprit la thèse de la psychiatrisation ou de la médicalisation des problèmes sociaux. L'idée défendue notamment par Conrad et Schneider à la fin des années 70, l'idée selon laquelle le recours à des catégories psychiatriques d'interprétation conduirait immanquablement à la dépolitisation de ces situations, à en tout cas l'individualisation de problèmes collectifs. Or, il me semble que sur la question du traumatisme et sur mes terrains portant donc sur certaines mobilisations de victimes, SOS attentat, sinistre de l'explosion de l'usine SDF, on a affaire à une configuration très originale dans la mesure où on a des groupes qui ne résistent pas à l'étiquetage psychologique, mais qui au contraire vont le revendiquer, vont le promouvoir. On va participer à la diffusion de cet instrument psychologique d'interprétation du malheur. Troisième raison de mon intérêt pour le traumatisme, cette fois-ci d'ordre plutôt méthodologique. Une des particularités du traumatisme, c'est sa sphère de diffusion. On l'a vu aujourd'hui, on n'a pas affaire à une catégorie hermétique de la psychiatrie, on a affaire à un langage d'interprétation du malheur qui se diffuse bien au-delà du cercle des spécialistes de la névrose traumatique. Un langage dont pouvaient s'emparer la plupart de mes enquêtés, donc par exemple des mouvements de sinistrés de l'usine AZF, pour rendre compte de leur parcours et surtout des motifs de leur action, de leur mobilisation. Un langage dont pouvaient s'emparer également les adversaires de ces mobilisations pour les disqualifier. On a vu ce matin, par exemple, l'imputation de traumatisme pouvait être mobilisée dans les luttes intradisciplinaires. On a appris donc que Brodel était un traumatisé psychique. Mais donc, un langage qui se diffuse. Un langage qui se diffuse par ailleurs également, ou qui trouve des traductions, en tout cas, dans les sciences sociales. Et pour ce qui me concernait, en sociologie des mobilisations. Le traumatisme peut devenir une catégorie d'explication. Alors, on change un petit peu de registre, mobilisé cette fois-ci, non plus par les acteurs, mais par le chercheur. Donc, la question qui se pose, c'est la question du statut à accorder au traumatisme. Est-ce qu'on parle d'une réalité psychologique, finalement, sur laquelle les sciences sociales n'ont pas grand-chose à dire? Est-ce qu'on parle d'une catégorie d'interprétation indigène, auquel cas on va pouvoir retracer ses usages, retracer ses conditions d'activation, sa circulation? Est-ce qu'on parle d'un concept explicatif qu'on peut utiliser soi-même? Alors, je vais revenir donc sur ces trois points. Je dirais d'abord quelques mots donc de l'importation en France de ce diagnostic. Je reviendrai dans un deuxième temps sur les politiques du diagnostic qui se mettent en place autour du traumatisme, c'est-à-dire sur les usages associatifs de cette catégorie. Je reviendrai dans un troisième temps sur les conditions du transfert de la notion de traumatisme en concept de sciences sociales. Alors, très rapidement sur l'histoire de l'importation du traumatisme en France. Je passe rapidement dans la mesure où c'est quand même une histoire d'une part bien renseignée aux États-Unis, donc les ouvrages d'Alan Young notamment, ou de Wilburn Scott sont assez diffusés, et surtout diffusés aujourd'hui par l'ouvrage à succès de Fassin et Reichmann, donc l'Empire du traumatisme. Donc, je me concentrerai uniquement sur les conditions de réapparition de ce diagnostic dans les années 90. Donc, diagnostic qui sommeillait depuis la Seconde Guerre mondiale et qui va réapparaître dans les années 90. Alors, pour présenter les choses de façon un tout petit peu schématique, j'utiliserai un modèle qui est efficace, à mon avis, d'un point de vue de présentation, qui est le modèle que propose Yana King pour rendre compte de ce qu'il appelle des maladies mentales transitoires, c'est-à-dire des troubles de la médecine, comme le traumatisme, qui ont une trajectoire historique chaotique, discontinue, c'est-à-dire qui ont des périodes de flux, des périodes de reflux, qui disparaissent un temps, qui réapparaissent ensuite. Et donc pour Yana King, pour qu'un trouble devienne socialement pertinent, il faut que soit présente ce qu'il appelle une niche écologique, c'est-à-dire au moins trois conditions de possibilité qui vont permettre sa diffusion. Première condition, c'est le fait que pour qu'une nouvelle catégorie de diagnostic entre en circulation, il faut un vecteur médical de diffusion. Simplement, il faut des cliniciens qui trouvent un intérêt théorique professionnel à l'investir, à le diffuser dans les publications, à lui donner corps dans les pratiques thérapeutiques. Ici, en France, en tout cas, pour les deux dernières décennies, ce vecteur médical va être rempli en particulier par une frange très particulière, une frange atypique de la psychiatrie militaire, qui va se charger de... qui va constituer une micro-discipline autour de cette de ce diagnostic. Donc médecine atypique pour plein de raisons, c'est-à-dire une médecine une psychiatrie qui déroge à un certain nombre de normes d'excellence psychiatrique. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une médecine salariée quand l'exercice libéral est valorisé, une médecine sociale, c'est-à-dire une médecine peu focalisée sur des activités de soins, mais beaucoup plus sur des activités annexes, principalement la sélection des conscrits. Donc une profession qui va longtemps souffrir du stigmate de spécialiste du P4, spécialiste de la distribution des certificats de réforme. Médecine, par ailleurs, qui est une médecine de boursier, c'est-à-dire que un concours d'entrée précoce, des études rémunérées, une sélection sociale plus faible que dans les autres branches de la médecine. Conséquence, une psychiatrie militaire qui connaît une tradition d'études du traumatisme, notamment des traumatismes de guerre, continue depuis la Première Guerre mondiale, mais des travaux dont l'audience dépasse rarement les murs des casernes, excepté les périodes de guerre, et donc excepté ces dernières années. Donc, pour comprendre la diffusion médicale du traumatisme, il faut avoir en tête le fait que ces psychiatres militaires, Louis Cros en particulier, au début des années 90, vont endosser un rôle qui est un rôle assez récurrent dans l'histoire de la psychiatrie militaire, c'est le rôle d'entrepreneur de diagnostic mondain, alors mondain pas au sens au sens de diagnostic qui rencontre un succès en dehors de la médecine et par contre très controversé en son sein. Et donc psychiatre militaire qui voit leurs travaux diffusés dans les années 90, sans doute pour un certain nombre de raisons, et notamment la psychiatrie militaire dans les années 90, c'est plus tout à fait la même chose que dans les années 2000, que 10 ans ou 15 ans plus tôt, notamment parce qu'il n'y a plus de conscription, donc les spécialistes du P4 n'ont plus de P4 à distribuer, ce qui veut dire concrètement qu'il y a des passerelles qui s'établissent entre la psychiatrie civile et la psychiatrie militaire beaucoup plus fortes qu'auparavant. Donc une circulation médicale du diagnostic. Deuxième condition de possibilité, donc nous dit Hacking, le vecteur médical ne suffit pas, il faut également que le diagnostic s'inscrive, alors c'est le terme d'Hacking, dans une polarité culturelle, c'est-à-dire qu'il résonne socialement, qu'il fasse écho à des problèmes, à des figures qui soient évocatrices socialement. Il faut, si on reprend les termes de la sociologie des groupes sociaux, que le diagnostic trouve ses représentants, ses incarnations, ses prototypes. De ce point de vue-là, donc dans l'histoire française de cette réappropriation du traumatisme, de cette réimportation du traumatisme, ce sont les victimes d'attentats dans les années 80 qui vont donc faire figure de représentants de cette catégorie clinique, puisque on a affaire, à partir de 1986, par l'association SOS Attentats, aux premiers usages, enfin aux premières réappropriations militantes de la catégorie de traumatisme en France. Notamment, enfin, je passerai rapidement sur cette mobilisation, mais l'enjeu pour SOS Attentats est de faire valider ou d'authentifier l'existence d'un traumatisme spécifique aux victimes d'attentats. Une des difficultés de cette association est notamment de trouver un point fédérateur aux victimes d'attentats, sachant qu'il est très difficile, y compris pour cette association, de savoir ce que c'est qu'une victime d'attentat. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle des familles endeuillées par un attentat? Est-ce qu'on parle des blessés? Est-ce qu'on parle, la plupart des membres de l'association sont indemnes physiquement des attentats? Est-ce qu'on parle donc des témoins? Et donc les séquelles psychologiques vont servir de fédérateur à cette mobilisation. Troisième, dernière condition de possibilité pour l'apparition de ces maladies transitoires, non seulement il doit être disponible médicalement, visible publiquement, Mais surtout, la particularité du savoir médical, c'est qu'il faut qu'il a besoin de la collaboration des malades, enfin des profanes et donc des malades. C'est-à-dire qu'il faut que les malades se reconnaissent ou se reconnaissent comme tels, identifient leur mal, identifient les spécialistes qui sont susceptibles de le prendre en charge. Et donc, nous dit Hacking, il faut que se mette en place un système de surveillance, de détection, d'observation donc des malades. Concrètement, la fortune du traumatisme, si on prend sur un temps un peu plus long, elle est très largement liée à l'existence ou non de ces dispositifs. C'est-à-dire que le trouble est repéré durant la guerre, durant la Première Guerre mondiale, parce qu'existent des dispositifs disciplinaires qui visent à traquer les déserteurs, à remettre au front donc les blessés nerveux, et donc on peut repérer les traumatismes psychiques. Même chose aux États-Unis dans les années 70, donc au moment où va se fixer le terme de PTSD, où on a une administration combattante très présente qui a un réseau de surveillance qui permet de repérer concrètement les... En France, dans les années 90, ces réseaux vont être constitués notamment par ce qu'on a appelé les SAMU-PSY ou les cellules d'urgence médico-psychologiques, c'est-à-dire des cellules qui se mettent en place sur, à partir de 95, donc sur le front de la plupart des catastrophes au sens large, puisqu'on va des catastrophes collectives aux catastrophes micro-individuelles, mais donc des psychiatres qui vont aller au devant des catastrophes et proposer diffuser cette catégorie, proposer leurs services, etc. Donc, on voit une circulation et des usages, y compris dans les mobilisations collectives. Donc, j'ai combien de temps à peu près ?
Encore 10 minutes.
10 minutes, très bien. D'où ma deuxième interrogation qui porte sur les effets politiques de l'usage de cette catégorie de traumatisme dans la construction des causes associatives, syndicales ou autres. Et donc, l'idée assez ancrée de conséquences qui tendraient plutôt à une individualisation du malheur, à une dépolitisation des causes. Vision qui est très présente dans la littérature sur le traumatisme, et notamment de la part de médecins, d'anthropologues engagés sur le front des violences politiques, avec une critique très forte par Kleinman, par exemple, par Derek Sommerfeld, une critique très forte des dispositifs de prise en charge du traumatisme. Qu'est-ce qui est reproché à ces dispositifs ? Localiser les causes de la souffrance dans le psychisme des individus plutôt que dans le contexte historique. Reprocher à ces dispositifs également d'entrer en concurrence avec une gestion militante finalement des griefs, on a affaire à une écoute. De modifier le sens des revendications. On accorde un droit à l'écoute là où on réclamait l'allocation de droits tout court. On reproche surtout à ces dispositifs d'imposer une grille d'interprétation aux victimes, c'est-à-dire d'étiqueter ces victimes comme des malades, comme des individus souffrants, plutôt que, comme eux-mêmes peuvent se percevoir, comme des survivants, des résistants, des martyrs, des héros, etc. Alors, donc, grille d'analyse, schéma d'analyse assez séduisant, à ceci près que il ne correspond pas à la manière dont se diffuse la catégorie de traumatisme en France depuis 20 ans. À ceci près donc que on a ici non pas on a ici une revendication de la névrose traumatique, une revendication des névroses par des associations, par un nombre relativement important d'associations assez diverses. On est ici donc beaucoup moins dans une problématique du pouvoir médical qui impose ses grilles d'interprétation, etc., que dans une problématique des usages de ces catégories médicales. On est plus dans une problématique des politiques du diagnostic, hein, c'est-à-dire des mouvements sociaux qui vont user de ces catégories cliniques pour attester, pour augmenter leurs revendications. Une des questions qui se pose, c'est quelles sont les propriétés des groupes qui utilisent ce registre thérapeutique d'expression des griefs, des revendications. Alors, une des hypothèses que je développais dans ma thèse, c'est notamment que le fait que ces politiques du diagnostic sont mises en œuvre essentiellement pour des groupes où le lien militant est problématique. Pour des groupes, l'identification au traumatisme va venir pallier des défaillances dans la construction d'une identité collective. C'est le cas des SOS Attentats, c'est-à-dire un groupe qui, d'une part, est géographiquement dispersé. On n'a pas affaire à un vécu collectif d'un même attentat. On a affaire à des événements qui sont très, très éclatés dans le temps également. Surtout, victimes d'attentats qui ont longtemps été invisibles, puisque l'attentat était précisément une atteinte faite à l'État et non pas un crime commis contre des personnes. Donc, quand l'identification est problématique, on va ici recourir, et donc ce que va faire cet attentat, on va recourir à une identification par le traumatisme. On pourrait dire la même chose dans l'univers combattant, c'est-à-dire que aux États-Unis, ce sont les vétérans du Vietnam qui se mobilisent autour du traumatisme. C'est-à-dire une génération, ce que montre notamment Wilburn Scott, enfin pas une génération, mais une guerre dans laquelle les conditions de mobilisation et de démobilisation posent un problème dans la construction d'une identité combattante, c'est-à-dire des mobilisations souvent individuelles, des mobilisations qui ne font pas l'objet d'une reconstruction collective, stigmates d'une sale guerre, etc. Et donc on voit à peu près la même chose en France, c'est-à-dire la catégorie de traumatisme est aujourd'hui mobilisée dans l'univers combattant essentiellement par les organisations d'anciens appelés d'Algérie, c'est-à-dire par l'ARAC notamment, ou sur d'autres fronts, alors par exemple par Avigolf, l'association des victimes de la guerre du Golfe, ou par les associations de vétérans des essais nucléaires, c'est-à-dire des générations du feu qui sont périphériques dans l'espace combattant. J'en viens à mon dernier point qui fera peut-être plus directement écho aux discussions de ce matin. Donc la question du transfert de ce diagnostic de traumatisme vers les sciences sociales. Alors, en sociologie des mobilisations, on n'a pas affaire à une importation directe de la notion, c'est-à-dire qu'on parle relativement peu de traumatisme en tant que tel. Par contre, se développe depuis quelques années un certain nombre de concepts qui cousinent très largement avec le traumatisme. Je pense surtout au concept de choc moral proposé par Jasper. Donc James Jasper, pour qui les chocs moraux sont des événements, donc la mort d'un proche, un accident, un danger, etc., qui vont produire un sentiment d'outrage, et un sentiment d'outrage tel qu'il va susciter directement à la fois la prise de conscience du problème et surtout l'engagement. C'est-à-dire que même quand les conditions ne semblent pas réunies à l'engagement, le choc moral va venir corriger. Va venir initier mécaniquement, plus ou moins, le passage à l'action collective. Alors, pourquoi un cousinage entre ce concept et la rhétorique du traumatisme ? D'abord, on a un voisinage sémantique, ça va de soi, le choc, qu'il soit traumatique, ici moral, bon, on a affaire au même univers lexical. Mais on a aussi un écho au niveau de la définition. Jasper nous dit donc que le terme de choc moral, renvoie à la puissance émotionnelle de ces expériences. L'image sous-jacente est celle de l'état de choc, du choc électrique, qui implique donc des sensations viscérales, corporelles, des vertiges, des nausées. Là, on est quasiment dans la symptomatologie du traumatisme. Dernière proximité surtout par le type d'explication proposée, c'est-à-dire que l'innovation introduite par le traumatisme, du moins ce qu'en dit Reichmann-Fassin dans la pensée psychiatrique, c'est le fait qu'on pense pour la première fois l'événement comme cause de la névrose. Pour la première fois, on pense une affection mentale indépendamment de l'histoire personnelle du sujet. Pour le choc moral, on a affaire à peu près au même type d'explication, dans le sens où l'événement devient la cause, ici l'action collective, et où l'événement devient la cause exclusive, c'est-à-dire indépendamment des propriétés, des dispositions sociales, militantes, des acteurs engagés. Autrement dit, l'événement efface dans un cas les antécédents, dans l'autre cas, les trajectoires sociales. Dans les deux cas, le choc escamote, en fait, tout ce qui précède le choc est escamoté. Concept qui peut être séduisant, qui, sans doute, explique beaucoup et explique, en fait, assez peu. Explique peut-être un peu trop, dans la mesure où tous les engagements, pourtant très disparates dans les associations de victimes, se trouvent réduits à une cause unique, le traumatisme. Qui explique peut-être aussi un peu trop bien, c'est-à-dire que quand il y a mobilisation, on peut toujours quasiment trouver un choc moral. C'est-à-dire, l'expansion donnée au choc moral est importante. C'est-à-dire, on n'a pas affaire uniquement à des catastrophes labellisées comme telles ou reconnues comme telles. On a affaire éventuellement à une décision politique qui va faire office de choc moral. Donc, on voit que, donc, explique trop, sans doute trop bien, peut-être également un petit peu trop peu, dans la mesure où, à partir du moment où on fait l'hypothèse d'un choc, les situations d'apathie deviennent difficiles à comprendre. Ou plus exactement, la même cause pourrait produire des effets qui sont inverses. Le choc moral conduit parfois à la mobilisation, mais en fait conduit sans doute très souvent à l'absence de mobilisation. La majorité des victimes d'un accident collectif ne se mobilisent pas. Et on peut imputer cette absence de mobilisation au choc, au traumatisme, etc. Donc premier problème, de l'étendue donnée à l'explication. Le deuxième problème, il est surtout, enfin en tout cas il se posait pour moi en termes d'administration de la preuve, c'est-à-dire comment on authentifie la présence d'un choc moral. Généralement, on l'authentifie par le recours aux entretiens, aux témoignages plus exactement. Le problème, c'est que les récits qu'on va recueillir, ou les récits que moi je recueillais sur, par exemple, sur mon terrain, sur AZF, le traumatisme, il était présent dans les narrations, mais j'arrivais après la bataille, c'est-à-dire j'arrivais une fois que d'autres spécialistes du récit de catastrophe, des psychologues beaucoup, des journalistes également, avaient édicté les règles finalement, avaient codifié la manière dont on devait narrer l'explosion de l'usine AZF. C'est-à-dire que quand j'arrive, le langage du traumatisme, c'est le langage central de la légitimation des revendications politiques. C'est la matrice des témoignages sollicités par les médias. C'est un langage qui, par ailleurs, a fait l'objet d'un travail de diffusion particulièrement dense après l'explosion. C'est-à-dire qu'on a 400 psychologues qui, le jour même de la catastrophe, se déploient dans la ville. On a dans les cages d'escalier des affiches traduites souvent en arabe qui vont détailler la nature des symptômes qu'on est susceptible de ressentir. On a surtout un langage qui est un langage de la réparation, c'est-à-dire un langage qui concrètement ouvre à des prestations matérielles, ouvre à des droits, ouvre à une indemnisation supplémentaire. Et on a affaire à un langage qui est un langage parfois plus facile à se réapproprier que d'autres termes qui peuvent être connexes. Notamment, dans les permanences d'associations de sinistrés, on s'aperçoit que l'explosion a lieu dans des quartiers populaires. Les gens qui recourent aux associations de sinistrés sont souvent à la recherche d'une aide administrative, d'accord, à la constitution de dossiers. Or, le langage du choc traumatique, il est moins compliqué à mobiliser que, par exemple, le préjudice moral, qui pourrait... Donc, on va facilement, et on voit très bien la diffusion de porte en porte, quasiment, de ce langage-là, le langage du choc, qui est plus accessible, finalement, qu'une catégorie juridique comme celle de préjudice moral. Et donc, qui va pouvoir appuyer les revendications. Donc, je finis là-dessus. La question, c'est quel statut je devais accorder à ces récits, c'est-à-dire, notamment... Quels à ces récits, donc à ces narrations traumatiques de la catastrophe. Il s'agissait quasiment de narrations officielles, c'est-à-dire ce qui m'a étonné en fait, c'est que moi je connaissais les gens, plus ils me parlaient de leur traumatisme. Au contraire, plus j'avais des relations de proximité longues avec mes enquêtés, plus le traumatisme était, n'apparaissait pas, ou la grille de lecture en termes d'avant-après, de rien ne sera plus jamais comme avant, etc., n'apparaissait pas dans les entretiens. Donc la question, c'est la question du degré d'adhésion à ce récit-là, à cette narration traumatique. Est-ce qu'on a affaire à une adhésion, est-ce qu'on a affaire à un récit d'expérience totalement incorporé, est-ce qu'on a affaire à des adhésions obliques, c'est souvent le cas, puisque là où on parle de son traumatisme, c'est surtout dans les expertises pour obtenir une réparation. Donc voilà, donc, je pense que, outre la difficulté à mobiliser le concept en sociologie des mobilisations, je pense qu'il faut s'interroger sur les multiples degrés d'adhésion à ce à une structure de récit d'une expérience qui, par ailleurs, est sans doute traumatique. Hein. C'est pas du tout la question, mais donc voilà, je m'arrêterai là.
Merci beaucoup. Donc, je propose qu'on enchaîne. Hein, et ensuite, Denis, tu reprendras la parole et on aura une bonne discussion particulière et générale.
Est-ce que
tout le monde
peut se placer au centre?
Ah oui, on ne va pas lancer. Non, non, ne bouge pas. Vas-y. Voilà, moi, je vais me... Oh, non, c'est bien, là, comme ça. Merci.
Donc, d'abord, il faut que je dois m'excuser de n'avoir pas été là ce matin. Je l'avais d'emblée fait savoir à Marie-Claire. Et donc, je peux peut-être dire des choses qui ont déjà été dites ou qui ont été abordées ce matin. En tout cas, je ne peux pas réagir dans ce que j'ai dit à ce qui a été dit ce matin et je m'en excuse. Deuxième, captatio benevolentiae. Donc, moi aussi, je me rangerai plutôt dans la catégorie de la superficialité. En fait, je ne me suis jamais véritablement occupé d'une... Je sais pas, fait une enquête vraiment sérieuse sur les usages par les sciences sociales allemandes de la catégorie de trauma, traumatisme. Et donc, je vous donne une vision peut-être... assez personnel de cette affaire qui est sujette à caution. Donc, je vous donne maintenant en quelque sorte la perspective allemande de service, ce que j'ai déjà fait un rôle que j'ai déjà souvent pris ici dans ce séminaire. Il me semble que cette question du traumatisme, évidemment, en est dans un point très sensible du rapport entre le psychique et le social tel que ça a été travaillé par les sciences sociales. Et je pense d'ailleurs que de ce point de vue-là, il y a sans doute une petite spécificité allemande qui est d'abord due à la langue, je vais y revenir tout de suite, et puis évidemment au rôle, au poids de Freud, de la psychanalyse d'une sorte de psychologie sociale à l'allemande, du passage de la psychanalyse à une psychanalyse sociale avec toutes ses variantes souvent contradictoires. Alors, la langue, évidemment, je pense que ça vaut le coup de s'y arrêter un tout petit moment, puisque donc en allemand, on ne dit pas traumatisme ou traumatismus ou quelque chose comme ça, ça n'existe pas. On dit trauma. Et tout Freud et tout ça, en fait, c'est toujours trauma. Et ça veut dire, donc, en fait, c'est dans le sens grec fondamental qui est, en fait, c'est la plaie, hein, c'est la blessure. Ce n'est pas ce qui a causé... la blessure ou la plaie, c'est-à-dire que c'est le résultat. C'est donc du coup, on n'est pas du tout dans un discours des chocs sur les chocs. Hein. Le choc, justement, il ne peut pas y avoir confusion entre un événement choc et le trauma. Donc, je crois que ça, c'est très intéressant et on va beaucoup plus insister sur traumatisation ou sur des processus sur un seul événement à l'origine d'eux. Donc, on est, je pense, dans une perspective un peu différente. Et deuxièmement, il y a une association en allemand qui n'est pas possible en français, c'est Traum et Trauma, qui a d'ailleurs été utilisé par beaucoup de personnes, y compris il y a une exposition récente, Napoléon et l'Europe, Traum und Trauma, donc rêve et traumatisme. Donc ça marche très bien en allemand. Donc il n'y a aucune, évidemment, aucune réalité étymologique à cette affaire. C'est, ça se trouve comme ça, et comme en allemand on aime ces espèces d'allitérations, ou ce jeu avec les allitérations. Bon. Alors cette association, elle n'est pas innocente, et là on est aussi de nouveau chez Freud, et parce que les rêves jouent un rôle très important dans les traumatismes qu'il analyse, et il y a donc, c'est pas clair du tout en fait la relation qu'il y a entre les deux, mais on associe souvent le traumatisme en tant que tel, et puis ce qui se passe dans un monde de projection intérieure, détaché, désassocié, déconnecté de la réalité, entre guillemets, tout en étant nourri par ce rapport à la réalité. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit parcours chronologique. Normalement, évidemment, il faudrait commencer avec Freud. Je vais juste dire quelques mots à ce sujet. Et ensuite, un petit parcours qui peut expliquer un premier constat que j'avais fait au départ, mais qui s'est quand même vérifié, en fait, l'usage du traumatisme, c'est-à-dire trauma en sciences sociales, indépendante donc de la psychanalyse ou de la psychologie sociale, est une affaire relativement récente en Allemagne, peut-être plus récent qu'en France aux États-Unis. Alors, j'ai dit que j'allais dire deux mots à propos de Freud. Bon, je pense qu'il y a plusieurs théorisations chez Freud du trauma, mais en tout cas, il fait toujours dans la distinction entre ce qu'il appelle une situation traumatique, qui lie d'ailleurs à la fois quelque chose qui est d'ordre événementiel, et donc projeté, si on est dans la dichotomie intérieur-extérieur, donc qui se passe à l'extérieur, et une manière de vivre, de réagir du sujet, de l'intérieur, par rapport à cet événement. Donc, en fait, situation veut dire ici toujours combinaison, en quelque sorte, de l'extérieur et de l'intérieur. Et deuxièmement, donc effectivement, il insiste beaucoup sur ce qu'il appelle le processus traumatique, qui sont en quelque sorte les conséquences de cette situation traumatique telle qu'elle est vécue. Et donc ensuite, on a les problèmes de latence et de mobilisation et d'abord de dysfonctionnement, de latence, de réouverture et de travail, évidemment, sur les phénomènes traumatiques. Donc, mais on reste fondamentalement, et ça je pense que c'est caractéristique de toute la discussion ou de l'approche allemande, entre guillemets, si on veut postuler ça, c'est que on reste quand même fondamentalement, même par la suite, dans un environnement discursif qui va faire référence à la psychologie et au psychique, dans un premier temps, et finalement l'ouvrir vers des phénomènes sociaux, mais cette association reste très forte en quelque sorte. Vous le verrez tout à l'heure. Donc se pose évidemment le problème, est-ce que d'une guérison possible ou d'une issue possible du traumatisme, il y a le problème de la mise en parole, mise en récit, de ce qui reste lisible ou de ce qui reste de l'ordre condamné au silence. Et puis, je pense que cette connexion entre le social et le psychique étroite, fait que le passage de l'individuel au collectif, ou les interactions entre l'individuel et le collectif, reste toujours un moment critique. Et on a donc, même les processus, quand ils sont pensés de façon collective, vont toujours être réassociés, réintégrés ou raccordés en quelque sorte à des niveaux d'expérience individuelle. Ça, c'est, je pense, la première caractéristique générale. La deuxième caractéristique, celle que je vais essayer de développer et qui est peut-être particulière en Allemagne, c'est qu'il y a le traumatisme ou le trauma est développé conjointement en tant que traumatisme des victimes, mais aussi traumatisme des bourreaux, des Täter. Et donc là aussi, on pourra dire ça, c'est Freud, c'est pas un hasard que c'est ce lien. Mais c'est vrai que quand on regarde la manière dont les sciences sociales en Allemagne se sont saisies de cette affaire-là, il y a les deux volets en fait d'emblée. Et il est impensable en quelque sorte de développer simplement un discours sur les traumatismes des victimes sans en même temps regarder du côté des bourreaux. Et là, il ne peut pas y avoir de victimes évidemment sans bourreaux. Et là, là aussi, la langue allemande, donc, elle, comme elle dit Täter, c'est pas bourreau, mais c'est celui qui a fait, hein, qui a causé. Donc c'est beaucoup plus large, donc du coup, est beaucoup plus englobant. Et donc ça permet d'inclure toute une série de personnages qu'on ne va pas d'emblée identifier comme un bourreau en tant que tel. Hein.
Comment on dit bourreau d'ailleurs?
Henka, hein, c'est ça. Ah, oui.
On dit jamais.
Voilà. On dit Täter, un peu, oui. Hein. Bon, alors, peut-être, première étape dans cette affaire, j'ai parlé pour combien de temps déjà?
10 minutes. Encore 12 minutes.
D'accord. Bon, alors très rapidement. Un rôle fondamental a joué le livre d'Alexander et Margarete Mitscherlich de 1967 sur l'incapacité de faire le deuil. Bon, c'était deux psychologues ou psychanalystes, et c'est eux d'ailleurs qui ont là aussi déjà fait le lien entre l'incapacité à faire le deuil des gens qui ont fait des Täter et l'incapacité à parler ou à dire quelque chose du côté des victimes. Et ils ont, même si cette notion n'était pas du tout centrale pour eux, utilisé le concept de trauma pour parler de cette affaire. Je passe. Hein. Ensuite, bon, ce livre a fait scandale, une grande discussion, etc. Et ce qui a fait surtout scandale, c'est que eux, ils ont en quelque sorte, à partir de cette analyse, fait un lien direct de la situation de la République fédérale allemande entre les années 50 et 60, de l'incapacité en quelque sorte de parler de ce qui s'était passé, et du problème de la responsabilité collective des Allemands. Donc ils ont analysé la culture allemande de l'après-guerre directement à la lumière de cette thèse, que c'était effectivement une situation, en quelque sorte une conséquence traumatique du national-socialisme. Deuxième étape, très rapidement, donc là, vous retrouvez Alaïda Asman, dans un des chapitres donc, de son livre sur les espaces de la mémoire, ou les espaces de souvenirs, donc il y a un chapitre sur des expériences traumatisantes ou traumatiques, où elle, par contre, donc, elle insiste sur le traumatisme des victimes et évoque notamment ce problème de l'incapacité d'en parler. Alors là, ça va entrer dans la discussion que vous avez eue tout à l'heure. Et elle cite à cet égard de façon très longue, justement, le livre de Ruth Klüger dit qu'elle se pensait incapable d'écrire une expérience traumatisante, la manière dont sa mère a été violentée à Auschwitz, et qui dit, après l'avoir écrit, ah ben, je suis absolument surpris et étonné. En fait, je l'ai écrit comme j'aurais écrit autre chose. C'était beaucoup plus facile que je le pensais. Mais elle remémore cette espèce de blocage traumatique qui, dans l'idée d'être incapable, en quelque sorte, de transmettre ce traumatisme. Et ensuite, donc, bon, il y a beaucoup de littérature où on a commencé à parler des traumas, du traumatisme. Alors l'Holocauste, le nazisme était absolument central, mais on a progressivement aussi parlé du traumatisme allemand de l'inflation, évidemment du traumatisme de la Première Guerre mondiale. Dans les livres, les mémoires allemandes d'Étienne François Hagenschulte, donc il y a un chapitre sur le traumatisme du traité de Versailles. Et ainsi de suite. Donc ça s'est élargi, même si évidemment le nazisme a été absolument central et resté central dans cette affaire. Et maintenant, donc troisième, si on veut dire, troisième étape, donc une thématisation beaucoup plus précise de ce traumatisme des bourreaux. Hein. Là, je fais référence à un livre du sociologue Bernard Giesen, qui est sociologue à l'université de Constance, qui a donc publié en 2004 un livre qui s'appelle « Tätertrauma », hein, « Traumatisme des têtes, des bourreaux », et qui développe en quelque sorte un espèce de tableau historique depuis l'après-guerre directe, immédiat, jusqu'aux années 90-2000, la manière dont ça s'est déployé progressivement, comme ça a été traité, et donc reprenant Mitscherlich pour les années 50-60, c'est-à-dire le traumatisme, l'incapacité d'en parler en tant que bourreau collectif, c'est-à-dire les coupables, c'était les seuls nazis qui avaient été condamnés au procès de Nuremberg, plus quelques-uns par la suite, et ensuite c'était en quelque sorte confiné. La discussion qu'il y a eu, lancée par, à l'époque, le président de la République fédérale, Theodor Heuss, sur la responsabilité collective, ou plutôt, donc, comme Heuss disait, la honte collective, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et parallèlement à ça, en RDA, l'idéologie officielle de la RDA qui disait que nous, on n'a rien à voir avec, on a été des victimes d'ailleurs, et puis maintenant, on fait la vraie et la bonne Allemagne, et on évacue l'implication de la génération et des Allemands qui étaient là sur place. Ensuite, une deuxième époque qui est liée en gros à 68. Le 68 allemand, donc c'était absolument central. C'était vraiment le thème, la chose qui a déclenché 68 allemand était profondément liée donc à la question que les enfants nés dans l'immédiat après-guerre ont posée à leurs parents. Donc, et maniant de réagir à l'évacuation officielle ou à l'incapacité d'en parler des parents aussi ou vis-à-vis de leurs enfants et donc à demander des réponses, c'est absolument fondamental. Et d'ailleurs, il y a une petite, comment dirais-je, une sorte d'annexe à cette question centrale. Qui est devenu la RAF, le terrorisme de l'action action armée rouge, RAF, hein, fraction. La bande à Bader, pour laquelle des sociologues ou des historiens récemment donc ont établit une autre hypothèse traumatique, c'est-à-dire que tout en agressant ou en demandant alors les comptes à la génération précédente, ils auraient en quelque sorte porter eux-mêmes le traumatisme en... bon, ils auraient été antisémites et formés dans les camps palestiniens et en quelque sorte propager un même type de violence que celle qu'ils avaient dénoncée chez les parents. Et d'ailleurs, c'est notamment un livre de Wolfgang Krauser, sociologue historien à Francfort, qui fait de ce point de vue-là établit des parallèles entre les Allemands, les Italiens et ce qui s'est passé au Japon dans les années 80. Bon, petite parenthèse. Et enfin, donc une troisième étape qui est une sorte de prise en compte par un ensemble et par l'État allemand d'une responsabilité collective reconnue des Allemands. Donc, symbolisé par le fait que Willy Brandt s'est agenouillé devant le monument à Varsovie, du ghetto de Varsovie, en quelque sorte spontanément, en 1970. Ce qui d'ailleurs est intéressant parce que donc, Brandt le fait lui-même en tant qu'émigré, victime du nazisme, dont on a dénoncé justement le fait à l'époque qu'il était absent de l'Allemagne, qu'il n'était pas présent. Et il le fait en même temps, en quelque sorte, en tant que chef du gouvernement allemand, de façon symbolique et d'ailleurs sans mots, sans paroles. C'est quelque chose qui de ce point de vue-là, est de façon relativement spontanée. Personne, en gros, était au courant. En fait, ça s'est produit comme ça, à ce moment-là. Et donc, du coup, c'est devenu un chaînon, en quelque sorte, dans ce processus, dans ce trauma, dans l'évolution de ce trauma, et par la suite, donc, différentes réactions officielles de la reconnaissance, en quelque sorte, collective, d'une responsabilité des Allemands en tant que collectif, et non pas d'une tentative de mettre d'un côté ceux qui étaient vraiment coupables, ceux qui étaient simplement des sympathisants, mais qui avaient permis que, etc., et ceux qui étaient absolument opposés déjà ou résistants à l'époque. Et la thèse de Giessen, donc sur laquelle je pense on peut véritablement réfléchir, consiste à dire que ce genre de reconnaissance d'un traumatisme collectif ne devient possible qu'à partir du moment où les vrais Täter, les vrais bourreaux ou les gens qui ont vécu ça au premier degré disparaissent. Néanmoins, ce qu'il observe, et là aussi je pense que ça mérite la discussion, c'est qu'encore aujourd'hui, on est souvent surpris de la violence, des réactions dans l'opinion publique allemande par rapport à des actes d'antisémitisme ou des thèses révisionnistes et des choses comme ça. C'est-à-dire, si quelqu'un fait un discours qui n'est pas très clair à ce sujet, comme ça a été le cas du président du Parlement allemand en 1991, je crois, Janine, oui, bon, tu le sais mieux que moi. Et en fait, ça se produit tous les ans, quasiment encore tous les mois. Il y a une espèce de réaction spontanée, violente, en tout cas unanime, qui perpétue en quelque sorte le traumatisme tel qu'il est. Donc, il y a tous les grands débats qui ont été lancés par Martin Walser, des écrivains, etc., qui essayaient de présenter une autre perspective sur cette affaire-là, c'est-à-dire c'est une mise reçue comme une mise en question de cette identité collective allemande fondée sur la reconnaissance de ce qu'ont fait les bourreaux. Et donc, je pense, bon, je ne suis pas complètement d'accord, mais ça mérite une forme de réflexion, surtout si on commence à le comparer peut-être avec d'autres situations qui sont qui sont confrontés au même type de problème. Et je veux dire, le refus justement des Turcs de reconnaître le génocide, de ce point de vue-là, évidemment, crée une sorte de situation absolument différente. Et c'est vrai, évidemment, aussi pour d'autres, Rwanda et tout ce qu'on pourrait évoquer ces dégâts. Il y a un dernier exemple, je trouve très, très intéressant à cet égard. C'est un roman qui s'appelle Der Vorleser, le liseur, dont peut-être les uns et les autres vous en avez entendu parler, qui est aussi une autre manière de mettre cela en scène, cette espèce de responsabilité collective sous forme de traumatisme transmis entre les générations. C'est donc l'histoire d'un jeune lycéen issu d'une famille bourgeoise libéral, de juriste qui n'était pas du tout nazi et qui va avoir une expérience sensuelle très forte avec une femme, une jeune femme à un moment donné et tellement forte que même lorsque cette affaire est terminée, il est incapable en quelque sorte de nouer une autre relation amoureuse réelle avec une partenaire, et il s'avère, et donc il retrouve cette femme comme une femme qui était SS, surveillante SS dans un camp, et donc il la revoit dans un procès, lors du procès. Et donc cette femme, elle était analphabète, bon, c'est pour ça que c'est le liseur, donc il lui lit des choses. Elle a essayé de cacher pendant tout ce temps-là le fait qu'elle était analphabète, et à partir de ce moment-là, donc on peut évidemment reconstruire sa propre histoire en tant que telle, pourquoi et dans quelles conditions elle a été engagée dans cette affaire-là, mais c'est aussi une manière de thématiser cette transmission intergénérationnel, non seulement parce que lui il le fait en quelque sorte à la place de son père, hein, il trans et en même temps il, par ce biais-là, en quelque sorte il encaisse, il s'approprie ou il est de cette responsabilité collective qui va jusque dans son destin individuel le plus intime l'avoir marqué. Bon, il y en a d'autres.
Surtout, si je me permets, il dit dans la préface que, dans le fond, nous avons tous aimé, nous avons d'une façon ou d'une autre aimé des gens qui ont dû être nazis, soit sensuellement, oui. Sexuellement, comme il dit, oui. Mais ou d'autres, enfin, nous avons tous eu des sentiments d'amour vis-à-vis de personnes qui... Voilà, ça c'est très frappant.
Ce qui est intéressant aussi, c'est le décalage entre l'autobiographie réelle et la fiction autobiographique. Oui.
Il y a une clé d'interprétation. On pourrait parler de Sebald ou d'autres écrivains allemands qui ont mis cela en scène et montré de façon utile et donc l'impossibilité en quelque sorte d'en sortir au-delà de la deuxième, la troisième génération. Voilà, donc je m'arrête là.
Merci Michael.
Oui. Trois questions rapides pour permettre un débat long, donc très surtout que je me suis exprimé un petit peu longuement si j'ai bien compris. La première remarque, c'est à partir de la de l'invention du PTSD au cœur de l'analyse de Fassin et de Reichmann, et donc ça c'est que tu évoques, je dirais évidemment pas dans le détail, mais ça m'amène à m'interroger sur la question de la chronologie globale ou des chronologies locales, pour prendre la distinction habituelle ou la connexion du local, avec cette notion centrale de victime, parce qu'il s'avère qu'effectivement, avec cette invention sociale du PTSD, on va dire, voilà, début années 80, et même 1980, puisque c'est officiellement à ce moment-là repris dans les manuels, la notion de victime est centrale, Et il s'avère que c'est aussi ce moment-là où, par exemple, dans la mémoire française de la Seconde Guerre mondiale, la figure de la victime est la figure structurante. Elle apparaît comme la figure structurante de la mémoire sociale de la Deuxième Guerre mondiale et succède, on va dire, ou très globalement, à la figure du héros. Je crois que je fais ça, évidemment, à la louche. Mais pour dire qu'on a manifestement des mécanismes, alors dans quel sens ça va fonctionner? Est-ce que c'est on a quelque chose qui est de l'ambiance globale, mais comment cette notion de victime va être centrale? Et dans les dynamiques mémorielles. La deuxième question, c'est sur les rapports entre sur la question de la cohérence et de la mémoire. Et sur l'exemple que tu évoquais à partir de Hazelbeck, parce qu'on le retrouve un peu partout. Le problème dans l'écoute des témoins, c'est qu'on il y a des expériences qui ont été faites, par exemple après le 11 septembre, on a un témoignage immédiatement après le 11 septembre, et là on est dans le flou le plus total. Et puis la même personne interviewée, parce qu'on a la chose a été faite à Columbia ou à la New School sur le 11 septembre, on a au bout d'un an une construction extrêmement solide de la mémoire de l'événement et très cohérente. Et ce qui m'intéresse dans l'affaire, c'est d'essayer d'explorer le fait que manifestement toute mémoire, surtout après événement traumatique, a besoin au plus vite d'une cohérence, et que cette cohérence se construit par une sorte d'aller-retour entre le grand récit qui se construit par ailleurs et ce qu'on a vécu soi-même. Bon. Donc c'est une hypothèse, mais qui a évidemment des conséquences sur ton propre travail que tu as évoqué toi-même, et tu mettais le doigt sur la difficulté comme sociologue, puisque tu arrivais après, en quelque sorte, et que toi, ce que tu recueillais, c'était le témoignage déjà reconstruit. Et donc, t'as déjà reconstruit, déjà cohérent, voilà, et déjà dans l'interaction avec le grand récit. Donc ça, c'est vrai que c'était d'autant plus intéressant que ça amène évidemment à s'interroger dans ce cas-là sur ce qu'est le traumatisme. On revient sur le grand sujet d'aujourd'hui. Mais avec ce qui a été dit par Michaël là-dessus, on voit bien que on a quand même deux problèmes différents. Si on scolarise sur l'événement ou si on scolarise sur le processus mémoriel. Donc là, il va falloir qu'on en débatte, qu'on discute. Est-ce que le traumatisme, c'est sur l'événement, ou est-ce que nous, la vision qu'on veut voir, c'est dans la durée, mais est-ce que c'est vraiment le traumatisme dans la durée qu'on explore, ou est-ce qu'on explore la mémoire du traumatisme? Donc, je pense que là, on a un petit peu à creuser. C'est à peu près ça. Je pense qu'on a, avec cette diffusion de cette terminologie, un vrai besoin de clarification conceptuelle. Moi, je veux bien qu'on utilise le terme, mais alors soit on l'utilise comme métaphore, soit on l'utilise avec une acception bien arrêtée. Mais si on prend l'acception bien arrêtée, il faut qu'elle soit cadrée. Elle sera peut-être différente suivant les disciplines, suivant les approches. Elle devra forcément être le fruit de réflexions croisées. Dans l'immédiat, je ne sors pas pour l'instant totalement éclairé sur l'utilisation que j'ai entendue du terme depuis ce matin, dans la mesure où on naviguait un peu de l'un à l'autre. D'une acception qui était une acception très clairement définie dans un champ bien particulier, jusqu'à des utilisations qui soit étaient de l'ordre métaphorique, soit renvoyaient à une grille d'analyse qui peut être une grille sociologique, historique ou autre, mais qui n'était pas explicitée totalement. Soit on naviguait, c'était hélas, ça peut être aussi une richesse, hein, de l'événement lui-même au processus mémoriel. Donc voilà, je c'est pas une critique, hein, je demande simplement, je lance ça dans le débat.
Je peux répondre peut-être aux deux premières questions. Sur la question de la chronologie, entre chronologie de la catégorie de victime, chronologie de la catégorie de traumatisme et chronologie de la révision de la façon d'envisager la Seconde Guerre mondiale autour de la notion de victime. Je pense qu'entre les deux premiers, il y a un lien qui est manifeste, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste, on a deux catégories qui se construisent à peu près en même temps, et surtout qui vont se renforcer l'une l'autre. C'est-à-dire qu'on a des fils empiriques entre ces deux catégories. On a des gens qui circulent entre ces deux catégories, qui vont promouvoir l'une puis l'autre, ou l'une pour soutenir l'autre, etc. Donc là, en France, les deux notions se développent en même temps. Aux États-Unis, je pense que c'est assez différent. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr, je ne sais pas quelle est la pertinence de la catégorie de victime aux États-Unis. Là, il se trouve qu'en France, ce sont des mobilisations, des associations de victimes se revendiquant comme telles qui vont soutenir la construction du traumatisme. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus dans l'univers combattant, notamment du Vietnam, donc un univers social quand même très différent.
Une seconde, à partir du moment où, pour reprendre ce que tu dis et ce que disent Fassin et Reichmann, que justement, il a une utilisation sociale, ce PTSD, et ça permet de dire que c'est pas une réaction anormale à une situation à peu près normale, c'est une réaction normale à une situation anormale. Donc on est, je dirais presque, dans la définition de la victime à travers ce jeu de rôle inversé à partir du moment où on renverse, c'est-à-dire on accueille nos vétérans, les vétérans, bon, ils sont dans une situation, ils auraient vécu des choses, etc. Et surtout, on les décharge de toutes les responsabilités, je ne porte aucun jugement, c'est simplement dans le processus, et on inverse, et donc la réaction devient normale. C'est l'événement qui est le responsable, c'est pas celui qui agit. Bon, il se couvre.
Oui, non, alors.
Ça allait dans ton sens.
C'était juste par rapport à l'autre chronologie, c'est-à-dire la chronologie par rapport au traumatisme de la Shoah, la mise en traumatisme de la Shoah, etc. Là, pour le coup, moi, j'ai pas trouvé de lien empirique entre les deux, c'est-à-dire de circulation, en fait. Alors qu'aux États-Unis, on peut l'identifier au moment de la construction du PTSD, on a effectivement des associations très diverses, des féministes, des survivants de la Shoah, etc., qui vont venir gonfler une catégorie qui initialement est construite autour uniquement du syndrome du post-Vietnam. En France, j'ai l'impression qu'il s'agit de chronologies qui sont différentes, d'acteurs qui sont différents. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres liens que simplement des échos. Mais, sur la deuxième question, sur la question de la cohérence des témoignages, et notamment de la question du besoin de cohérence. C'est pas certain qu'il y ait une cohérence, y compris dans les narrations produites par, en l'occurrence, les sinistrés d'AZF. Je pense que simplement, les modes de narration peuvent, pour un même individu, à un même moment, différer selon la scène sociale sur laquelle on les produit. Il se trouve que là, on produisait les narrations avec comme fond la narration traumatique. Pourquoi ? Parce que je fais des entretiens, que je suis sociologue, que personne ne sait identifier un sociologue, on ne sait pas ce qu'il fait, et donc je suis quelque chose comme un psychologue. Pourquoi ? Alors, est-ce que c'est la façon dont ces acteurs mettent en cohérence pour eux-mêmes, par ailleurs, l'explosion ? Je ne suis pas certain. Simplement, quand ils s'adressent à moi, ils vont avoir recours, pour une part d'entre eux, à ce langage-là. On va éventuellement confondre la destination aussi de mes entretiens, c'est-à-dire me proposer d'aller faire un entretien avec tel fils parce que ça lui fera du bien. Donc après, je ne suis pas sûr que ça soit des récits cohérents. C'est pour ça que je pense que c'est un récit qu'on produit sur certaines scènes clairement identifiées, l'entretien psychologique, l'expertise pour indemnisation, le témoignage médiatique. Je ne suis pas sûr que ce discours, ce récit, soit si consistant que ça sur, dans les scènes familières, par exemple.
Oui, il est cohérent dans sa tête. Non, je suis désolé d'insister parce que moi, je prends l'exemple souvent du 11 septembre parce que c'est frappant. La même personne qui a interviewé juste après, j'ai un petit peu regardé ce qui se passait dans les archives colombiennes. La personne qui arrive et qui a d'abord le choc, qui dit il y avait la fumée partout, et l'odeur, je suis descendu, j'ai entendu des bruits de sirènes, je suis sorti, j'entendais des trucs qui arrivaient, des voitures de partout, je suis arrivé chez moi, j'ai dû donner un coup de fil à ma femme et se coucher. Bon. Un an plus tard, j'étais avec Jim, on était au 34e étage, on a fermé la porte parce qu'on voulait sauver les disques durs qui se trouvaient à l'intérieur, où on avait ça, ça et ça. On a descendu. Là, on a croisé les pompiers qui remontaient. Ça, c'est des héros, les pompiers, parce qu'ils ont fait ci, ça, et puis ça montrait bien que la résistance, etc. On leur a dit, montez pas, sinon ça va s'écrouler. Ils sont montés, on a vu, ça s'est écroulé, on est redescendu. Là, il y avait du monde partout, on a laissé passer les gens, on descendait. Là, il y avait les sirènes, parce qu'il y avait à la fois les pompiers, les ambulances. Jim m'a dit, regarde à gauche, j'ai regardé à gauche, tac, il y a un mec qui se cassait la gueule par une des twins. Et ensuite, alors après, j'ai pris la première à droite, deuxième à gauche, je suis arrivé chez moi, je téléphone à ma femme, je dors 24 minutes 30. Bon, évidemment, j'exagère, mais on voit bien, et c'est toujours comme ça, la personne a besoin d'un récit. Après, que les autres le trouvent incohérent, peu importe, mais dans
sauf sa que tête, ce récit-là, on ne le produit pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut le produire parfois, c'est-à-dire la plupart de mes enquêtés. Certains de mes enquêtés, notamment quand j'ai voyagé la première fois, produisaient le récit dont vous parlez, c'est-à-dire effectivement un récit qui a dû se stabiliser sans
aucun doute.
Bien sûr.
Pas besoin de sociologues, des historiens pour
oui, on est d'accord.
Cohérence, hein.
Mais malgré tout, c'est un récit qui. Ma question, c'est pourquoi certaines personnes se sentaient dans l'obligation de me proposer ce récit, d'autres pas du tout. C'était plus ça. Donc, sinon, le souvenir va sans doute se constituer effectivement par bricolage des récits qui vont être mis, des narrations qui vont être mises en circulation en ce moment. Et qu'on est beaucoup sollicité après la ZDF à raconter son histoire. Donc, je partage vos remarques.
J'avais une question. Dès lors qu'il y a, pour reprendre le catégorie, une résonance sociale, comment est-ce que vous expliquez, est-ce qu'on peut, comment dire, contextualiser, historiciser, une forme de réception particulière du reste de la société, enfin, je dis ça la chose un peu simplement, ou autrement, est-ce qu'il y a un changement du seuil de sensibilité à la violence? Je prends un exemple simple, je reprends l'exemple du soldat d'Afghanistan tué avec... dépôt de plainte, je me replace en 1915, il y a presque 1000 morts par jour, il y a une acceptation des circonstances particulières d'un seuil de violence qui est imposé, par les circonstances de la guerre, et aujourd'hui on est probablement dans une acceptation infiniment moindre, et c'est un constat, peut-être que je me trompe, de la violence qui, d'une certaine manière, constitue un contexte de ce que vous dites. Parce que s'il n'y avait pas ce seuil, à quoi servirait cette stratégie? Comment elle pourrait prendre prise? C'est une problématique qui est y compris sur la Shoah, c'est-à-dire on peut discuter à l'infini de savoir qui a parlé, qui n'a pas parlé, pourquoi, quand, comment, en apprenant beaucoup plus parler. La question n'est pas simplement d'avoir été écouté, c'est quelle est l'importance sociale de cette parole. Beaucoup de gens ont parlé, mais la Shoah comme problème public n'a émergé que dans les années 70. On peut retourner le problème dans tous les sens, on va toujours déboucher sur ce type de chronologie. Là, c'est une question, c'est pas du tout une critique. Est-ce que vous pouvez identifier justement une réception plus grande à ces questions de catastrophes naturelles, de victimisation, de etc., etc.
Dans les civilisations supérieures, parce que les inférieures actuellement, la question de la mort de masse, c'est quand même se pose pas dans les mêmes termes que dans les civilisations supérieures.
C'est du bon sens, comme dirait.
Je veux pas être du profond justement parce que l'émergence de la catégorie de victime est systématiquement référée à des macro transformations. Donc on a l'impression que c'est une catégorie qui s'impose et qui fonctionne très bien. C'est une catégorie qui fonctionne pas si bien que ça. Là. 80% des textes produits sur la catégorie de victimes sont des travaux de critique de cette catégorie. Donc, et après, sur les résonances et sur la question du seuil de sensibilité à la violence, la figure du traumatisme psychique, elle est constituée là, mais aussi au moment de la mise en place des assurances sociales. Donc il y a un ciel, donc un moment où le seuil de sensibilité à la violence est différent, mais aussi par les militants pacifistes dans l'entre-deux-guerres en Allemagne. Donc on a quand même des... Donc j'aurais du mal à faire une hypothèse un peu macro qui serait une sensibilité plus grande à des...
Quand vous dites que c'est la fin des années 80, pourquoi ? Enfin, juste, c'est un réflexe historien.
Pour une question de conjonction de... Alors, mais je suis d'accord, la question de la résonance se pose toujours. J'ai du mal à tenir d'autres autre chose qu'un fil empirique qui se noue à ce moment-là. Je suis d'accord, c'est pas très profond comme explication.
Quand tu utilises l'expression registre légitime d'expression de la plainte, il y a quand même l'idée que quelque chose comme une sensibilité qui n'est pas une sensibilité générale et qui, deux, n'est pas durable, surtout c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas dire que quelque chose comme une sensibilité s'établit partout, de manière diffuse, sans résistance, sans réappropriation, et pérenne. Donc on dit juste qu'à un moment, des choses se passent dans différents lieux sociaux qui n'ont jamais de caractère de généralité et systématicité, et que ça peut former effectivement des registres de discours qui sont plus légitimes que d'autres. Et on ne peut pas aller au-delà des superficies.
Pour la sensibilité générale. Mais encore une fois, ni au Rwanda, ni au Cambodge. Hein. Voilà. À peu près, non, ce que je veux dire, c'est que le discours qu'on a eu là sur le degré d'acceptabilité, sur le niveau, le nombre de victimes, etc., c'est pour rejoindre ce que je veux dire, c'est dans le temps, effectivement, on ne sait pas si c'est bien ou c'est pas, quel moment il faut bien définir le chronologique, mais c'est aussi géographique. C'est-à-dire, il y a des pays où on se. Voilà. Puis quand on y allait à la machette au Rwanda, on ne se disait pas, tiens, dès qu'il y a un mort, je m'arrête parce que je commence à avoir peur, quoi. En revanche, ce qui est le Belge qui était là pour essayer de régler la question, lui, il se posait la question dans les termes qu'il pose de l'ONU, là, qui freine, mais pas.
Philippe. Oui, il y a un mot justement que vous avez dit tout à l'heure, c'est médiatisation. Alors, je vais poser deux questions, puis alors une autre à Michael par ailleurs. Première question. Je suis quand même très frappé de voir que le traumatisme, entre guillemets, de la guerre de 14-18 est très fort. Enfin, les gens qui aiment les tranchées, dans les tranchées, on sait maintenant par exemple de choses. Bon, ça fait pas tellement problème, hein, j'ai l'impression. Ça fait aujourd'hui, non, attention, ça fait aujourd'hui problème. Mais je peux vous dire que ça ne faisait pas problème, ça a fait un peu problème par le pacifisme, enfin, n'exagérons pas quand même. Bon, il n'y a eu plus jamais ça, mais enfin... Bon, on a mis en cause les témoignages, vous le savez. Deuxième point, deuxième question, donc, différence très forte. Deuxième question, la médiatisation. Moi, je suis très frappé de voir que maintenant, en France, chaque fois qu'il y a le moindre incident, là, je suis un peu sensible à la question, dans un établissement scolaire, hein, on met une cellule psychologique en place, on parle de victimes, hein, et toutes sortes de choses. Alors, dans quelle mesure il n'y a pas une sorte de banalisation poussée, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, hein, sur ces, entre guillemets, situations, c'est-à-dire, en quelque sorte, une sorte de médiatisation du fait que tout le monde est obligé de se sentir, à un moment quelconque, victime. Je veux dire par là une sorte de vraiment, on a fait la Shoah. Hein. Deux, les gens revenus d'Algérie, ou du Vietnam avant. Hein, Vietnam, Algérie et tout. Et puis maintenant, vous avez une petite épreuve qui, malheureusement, hein, dans notre monde est immédiatement victime. Voilà la question que je pose. Alors, dans quelle mesure la médiatisation actuellement n'est pas en train de transformer complètement la notion et de faire qu'en effet, alors là, sur ce point-là, je pense que ce n'est pas du tout l'événement. C'est toujours non seulement un processus de mémorisation, mais un processus de mise en scène médiatique, de mise en scène presque télévisuelle, comme on vous remet en boucle, hein, et chaque jour un événement choisit l'autre, hein, toujours, vous voyez, la cellule psychologique. Voilà la question que je vais poser. Alors, une question que je vais te poser, mais alors là, elle a un peu à voir avec l'actualité. Tu as fait allusion aux divers, entre guillemets, phénomènes traumatismes en Allemagne et en France. Tu le sais très bien, on nous bassine les oreilles, actualité, à propos de la dureté d'Angela Merkel sur les problèmes de la BCE, etc. Dans quelle mesure peut-on vraiment... Bon, traumatisme Versailles, d'accord. Mais traumatisme de l'inflation, est-ce que ça correspond à une image ou est-ce que c'est une réalité?
Alors maintenant, est-ce que c'est un traumatisme? Je ne sais ça. Mais qu'il y a un problème à ce niveau-là, oui, hein, toujours. Ça c'est incontestable. Même si ça, c'est ce genre de traumatisme entre guillemets, si on appelle ça comme ça, qui se résolve avec le temps, forcément. Mais il y a ces deux moments en 1923 où effectivement une grande partie des classes moyennes ont absolument tout perdu et puis la réforme de la monnaie en 48 et c'est quelque chose qui était transmis aussi dans les familles, c'est-à-dire voilà. Donc ça, oui. Alors maintenant, là, ça va se résoudre, je pense. Maintenant, comme j'ai parole, je voulais peut-être dire encore deux choses que je n'ai pas eu le temps de dire, mais qui permettent de nourrir aussi la discussion. Il y a un cas très spectaculaire d'association de victimes et bourreaux, c'est le cas de l'Autriche. Les Autrichiens qui, ont, en 1943, lors de la conférence de Moscou, ont été désignés comme les premières victimes du nazisme, ont construit là-dessus leur deuxième république, et qui ont progressivement vu que c'est pas comme ça qu'on allait résoudre le problème. Et donc l'association victime et en même temps ou l'ambiguïté, voire la confusion des deux statuts est quelque chose qui a duré en Autriche jusque dans les années 90 et a été traité progressivement par les historiens. Bon, il y a eu l'affaire Waldheim et toutes sortes de choses qui sont intervenues pour donner une certaine visibilité au problème. Et il y a un autre exemple d'actualité, et je pense que c'est, et là c'est de nouveau allemand, mais qui me paraît très intéressante à injecter dans notre discussion, c'est ce qui se passe à propos des expulsés allemands des territoires de l'Est depuis déjà une quinzaine d'années, parce que du coup, en quelque sorte, on pourrait dire la reconnaissance d'une responsabilité de bourreau ou collective, de responsabilité collective des Allemands, a rendu aussi possible, mais uniquement après, l'émergence ou la reconnaissance d'un statut de victime pour certaines parties, les bombardements, et notamment donc ces expulsés. Et on voit très bien comment le débat sur ce centre, qui était d'abord un centre pour les expulsés, hein, à Berlin, qui devait être érigé, installé, etc., forte réaction des Polonais, et ainsi de suite, et maintenant, qui s'appelle maintenant Centre contre l'expulsion et les fuites en Europe, on a essayé d'internationaliser le problème, mais comment, finalement, ce genre de discours qui mélange... Alors, pour les expulsés, c'est absolument caractéristique, parce qu'on a toujours dit aux expulsés... Et oui, mais vous étiez coupable, vous, les Allemands, vous êtes coupable de ce qui vous est arrivé. Alors, individuellement, ils disent, moi, mais j'étais anti-nazi, j'ai jamais fait quoi que ce soit, etc. Je suis victime de, à la fois de la politique nazie et ensuite de la politique de l'Union soviétique. Et maintenant, ça semble, on semble trouver des formes d'arrangement et de discours public qui associent ou qui sont construits justement sur la concomitance, en quelque sorte, d'une responsabilité collective et d'un statut de victime individuelle. Et c'est au nom des individus que ces centres sont érigés, alors que les individus qui étaient réellement concernés entre 45 et 47 ont quasiment disparu. Et on sait aussi que chez eux, donc il y a une thèse trop récente là-dessus, que la mémoire de l'expulsion, de ce qui s'est passé, est très peu transmise dans les familles. Au contraire, ils ne veulent pas trop savoir ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui va disparaître. Mais bon, excusez-moi.
Oui, je pense qu'on peut peut-être dissocier les deux questions qui sont la question « il y a de plus en plus de victimes à la télévision » et la question « on se revendique de plus en plus comme victime ». Alors, ce n'est pas des questions qui sont indépendantes. De fait, il y a de plus en plus de victimes à la télévision. Vous avez vu ces enquêtes de ce comptage de l'INA qui montrent que le journal de 20 heures, si on prend une période de 15 ans, la parole de victime, quelle que soit, est devenue en temps bien plus importante que la parole de représentants politiques. Donc, il y a de plus en plus de victimes à la télévision. Est-ce que ça veut dire qu'on se perçoit de plus en plus comme victime ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on va utiliser ce mode de présentation de ces griefs, parce que de fait, s'adressant aux médias, la réception est plus importante. Donc, ça veut dire que, par exemple, si je prends le cas de Toulouse, on a affaire à quoi ? On a affaire à des mouvements sociaux qui ne se pensent pas de plus en plus comme victimes. On a affaire à des mouvements sociaux très classiques, c'est-à-dire des associations écologistes, des associations de lutte pour le logement, etc. Des associations d'extrême gauche, mais qui endossent l'habit qui vont, par exemple, donc créer des associations de victimes, sachant que la réception médiatique sera meilleure. Et à côté de ça, même parmi les associations les plus constituées de victimes, par exemple SOS Attentat, par exemple La Paix, je ne connais quasiment aucun dirigeant associatif qui ne remette pas en cause le fait d'être une victime, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas cette étiquette. C'est pas un label si valorisant que ça, c'est-à-dire qu'on s'en défend. On sait que ça a une utilité, notamment médiatique. Mais il y a une obligation quasiment à refuser cette étiquette, en tout cas à dire que on n'a pas trouvé d'autres mots, ou d'autres mots étaient déjà pris, etc. Je suis pas sûr que le côté on est de plus en plus, on se dit de plus en plus victime. Je pense que c'est une manière de présenter les problèmes sociaux qui fonctionne bien médiatiquement.
Sur certaines scènes.
Sur certaines scènes.
Et par ailleurs, c'est un peu. Peut-être juste une remarque. C'est pas tout à fait la même chose, victime et traumatisée. C'est quand même un petit décalage. La revendication du statut traumatisé.
Les coupables peuvent être traumatisés.
Et les coupables peuvent être traumatisés, effectivement. Et il y a des catégories spécifiques, quoi, on se pose la question, ça va. Et par ailleurs, il y a très donc, quelle est ta question?
Je pense que c'est la
bonne question. Est-ce qu'on doit être traumatisé par la chaleur ou par le froid?
Là, je crois que.
Dans la chaleur, je le laisse.
On vote?
Bon. Janine, je crois que vous vouliez intervenir.
Je voulais faire une. J'avais deux choses à dire à mon voisin, dont j'ai beaucoup apprécié la prise de parole. La première, je voudrais, puisque vous avez parlé de Ruth Klünger, que j'ai bien étudiée, je voudrais vous lire quatre lignes, parce qu'elles sont significatives de ce que vit un enfant de survivant. Pour ma mère, il n'y a pas eu un jour où elle ait su avec certitude qu'aucun des deux, ni l'homme ni le gamin, n'avait pas échappé au meurtre de masse. Sa tête doit être entrée, hantée par les images les plus atroces, en partie inventées, en partie remémorées. Ce peut être l'une des raisons pour lesquelles, à peine après avoir passé un bref moment ensemble, sa compagnie me devient insupportable. Et je trouve que c'est très bien décrit la façon où la parole ne peut pas justement s'érotiser, s'échanger dans les familles de survivants. Elle dit des choses très intéressantes dans son rapport à sa mère. La deuxième chose que je voulais dire, alors ça ne concerne pas votre exposé, mais comme vous avez fait allusion à la théorie freudienne, je voudrais rappeler ce que dit René Caës à propos du trauma. Il rappelle que chez Freud, l'expérience traumatique se vit dans un après-coup. C'est-à-dire que un enfant a été abusé, par exemple, par son père, puisqu'il prend souvent l'exemple de l'abus sexuel. Bon, ça va, et quelque chose dans sa vie se produit et qui lui fait revivre cela, et c'est dans cet après-coup-là que l'expérience traumatique se déclenche. Et ce que dit René Caës, c'est que ce que Freud n'a pas vu, et qu'a traité davantage Ferenczi, c'est que, en réalité, les survivants de camps de concentration, des horreurs de génocide, etc., ils n'avaient pas vécu ça avant. C'est-à-dire, il n'y a pas un premier événement dont l'après-coup fait surgir l'expérience traumatique. Et qu'avant, il n'y a rien, puisque ça, c'est inimaginable, ça ne peut pas avoir été fait, ça ne peut pas avoir existé. Et qu'en fait, ce dont il souffre, c'est d'une totale absence dans la transmission, d'un vide, d'un rien. Et que le problème, justement, c'est de faire advenir ce rien en quelque chose. C'est ça, sans doute, la mise en récit, ce que j'appelle traduire dans la culture de l'autre. Mais j'ai beaucoup aimé votre exposé, et peut-être vous auriez dû, j'ai oublié le nom, celui qui a écrit « Enfant de victime, enfant de bourreau ». Hein ? C'est très intéressant, parce qu'en fait, en le lisant, on se rend compte que c'est plus difficile d'être enfant de bourreau que d'être enfant de victime. On ne s'en remet pas d'avoir un père bourreau, mais on peut s'en remettre d'avoir un père victime. Un père bourreau.
Encore qu'il y a, il y a des cas très intéressants.
Oui,
hein, très,
oui,
très,
oui,
très,
c'est très concret.
Oui, concret.
Ouais. Bon. Oui,
Anne Bazin, oui. Une remarque à la suite, justement, exactement de ce qui vient d'être dit, mais pour faire écho à ce que disait Michael Bernard, concernant la transformation de la nature du traumatisme, notamment au bourreau. Je rebondirais aussi, des expulsés qui est cher, où précisément dans la manière dont le débat s'est développé, justement dans les années 90 en Allemagne, on a des expulsés qui se considèrent comme victimes, et qui se considèrent d'autant moins comme faisant partie des bourreaux qu'ils étaient enfants au moment où ils ont été expulsés. Donc on a là une coupure avec la génération des bourreaux reconnus comme tels, ou qui sont reconnus pas, mais en tout cas identifiés comme tels. Et donc je trouve que là il y a une question intéressante qui se pose, justement dans ces trajectoires d'autant plus divergentes à ce niveau-là, au moment de la deuxième génération, la question de comment se transforme ce traumatisme. Comment il est réapproprié complètement dans la deuxième génération de 68, comme on
dit, oui.
Où les enfants les plus sexes. Tout à creuser.
Moi, je pense que de ce point de vue-là, c'est la troisième génération qui est absolument centrale. La manière dont elle va réagir. Est-ce qu'elle va reprendre ça d'une certaine manière ou non ? Et souvent dans des processus mémoriels, en fait, les troisièmes générations deviennent actives. Or, pour les expulsés, ça ne semble pas être le cas, et sans doute pour d'autres aussi. Hein. Donc, mais c'est là, j'ai l'impression que c'est là qu'il y a une sorte de bifurcation qui va décider sur la manière dont ça va être traité par la suite. C'est d'ailleurs la même chose que pour les phénomènes migratoires, souvent, phénomènes d'acculturation, retour, etc. C'est à partir de cette distance-là qu'on peut intervenir d'une autre manière ou on y renonce. Mais on n'est plus sous la contrainte immédiate de traumatisante.
Bon. Je voudrais intervenir ou passe aux conclusions générales de Philippe. Non, mais c'est une question.
C'est une question générale. Hein.
pas superficiel.
Généraliste.
Mais je reviens à la question, enfin, j'avais abordé un peu ce matin sur la question du juridique, c'est-à-dire que oui. Ces catégories ont quand même un rapport avec l'action, c'est-à-dire le rapport tout le temps, c'est des gens que je connais un peu, enfin, sur les procès, tout ce qui est relatif à la gestion juridique de séquelles de la Shoah. Il y a eu deux phénomènes qui se sont superposés et l'un a pris la place de l'autre. Le premier, c'est, on est dans l'ordre de la culpabilité, au sens pénal du terme, on poursuit les bourreaux pour les condamner. Donc ce qui est visé, c'est la stigmatisation du bourreau. Donc, ça débouche sur des procès ou ça débouche pas, mais enfin, il y a une action. Le cas typique, d'ailleurs, c'est les carcérales de ce point de vue-là. On commence par chasser les bourreaux. Hein, les premiers procès, c'est le procès de Cologne. Voilà. Puis après, ils vont se rendre compte qu'en faisant ça, ils ont oublié les victimes, au sens vraiment fort du terme, et ils vont se préoccuper tout autant de la question des victimes, donc ils vont faire. Et puis, peu à peu, pour des raisons, alors c'est là où je ne sais pas s'il dépend des raisons, parce que le temps passe, parce que les bourreaux disparaissent, parce qu'il y a un changement de stratégie d'un certain nombre de ces associations, notamment celle-là, on va s'occuper de la question des réparations. Dès lors qu'on est dans la question des réparations, on a changé de registre juridique. On n'est plus dans la culpabilité au sens pénal, on est dans la responsabilité au sens civil. Et on le voit très bien, il y a un cas emblématique en ce moment en France. Il n'y a plus de poursuite pour crime de culpabilité, c'est plus possible. À la fois pour des raisons biologiques, il n'y a plus de. Encore que ce n'est pas la seule raison. Mais il y a encore des poursuites civiles contre la SNCF. C'est le cas de la SNCF qui est très particulier, un peu compliqué, on ne peut pas entrer dans le détail. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que du coup, le statut de celui qui poursuit, si ce n'est pas l'action publique, si ce n'est pas l'État, mais s'il y a une association, un plaignant, le statut dans la responsabilité civile et le statut dans la culpabilité pénale n'est pas du tout la même. Dans la responsabilité civile, la victime est absolument centrale. C'est elle qui est au centre de la... Tandis que dans un procès pénal, même si ça a évolué, et les juristes nous disent depuis des années que ça a évolué, on a beaucoup plus pris en compte, par exemple, le rôle des parties civiles dans un procès d'assises est beaucoup plus important qu'il ne l'était il y a 20 ans. Donc, là aussi, il y a des changements. La façon dont on définit ce qu'est une victime. Voilà. Je voulais savoir si ça peut avoir un rapport avec ce sur quoi vous travaillez. C'est-à-dire que, pour le dire clairement, dans le cas des élèves que je ne connais pas, est-ce qu'on n'a pas à un moment laissé de côté la question des responsabilités individuelles, qui a fait quoi, à qui la faute, pour se demander qui a été victime du dommage. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là?
Sur les élèves, c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est-à-dire que c'est surtout, pour des raisons particulières, bon, la règle pénale est extrêmement investie, puisque il y a, je crois, plus de 2000 parties civiles. Donc le procès pénal en cours, la victime se concentre avec un dispositif par ailleurs hein, qui est tourné vers les victimes complètement, avec le procès filmé, enfin, et la question de l'indemnisation civile ne se pose pas, c'est-à-dire qu'il y a une convention d'indemnisation qui précisément exclut les victimes de la scène judiciaire pour régler la question de la réparation. Et donc ça veut dire qu'en fait la question de l'indemnisation est restée une question individuelle qui ne s'est pas constituée quasiment pas à l'inverse de la question de la responsabilité pénale qui était l'objet de la plupart des associations. En fait, la construction civile des victimes sert à nourrir, sert à recruter. C'est-à-dire que la plupart des gens qui se rendent dans des associations de victimes, c'est pour des questions d'indemnisation. Donc ça va servir à recruter pour ensuite peser sur le pénal.
Non, mais tout à fait.
Je pense qu'on va peut-être arrêter là la discussion. Et Philippe, tu veux bien faire deux travaux de conclusion?
Moi je vais tâcher de réaliser 5h15, donc on pourra tous se libérer dans une dizaine de minutes. Alors, la première chose que je voulais dire, c'est d'abord qu'on a tous été frappés, je crois, de la richesse, c'est peut-être une banalité, mais je crois qu'il faut quand même le dire, hein, de la richesse et de la variété des interventions. Et cette richesse et de variété vient, je crois, de ce que il y a eu un croisement, d'abord, des disciplines, un certain croisement des périodes, puisque nous sommes remontés jusqu'au Morisque, et d'un croisement des espaces géographiques grâce à Michael Werner.
Deuxième remarque, je suis très frappé quand même d'entrée de jeu, nous en parlions en aparté avec Marie-Claire, finalement, tout au long de cette séance, de l'importance de l'ego-histoire, soit direct, soit indirect. Direct, et c'est tout à fait normal avec Janine Altounian, mais même indirect ou implicite pour plusieurs d'entre nous, et explicite quand on a abordé, par exemple, le problème de l'attitude de Pierre Nora ou le problème de la génération Marc Bloch, Lucien Febvre, Brodel, les Annales. Et à ceci, d'ailleurs, on pourrait ajouter un autre personnage qui a été un des grands créateurs de l'enseignement contemporain, c'est Pierre Renouvin. Lequel Pierre Renouvin, enfin, la plupart d'entre vous l'ont bien entendu pas connu, hein, mais ceux qui l'ont connu se rappellent que c'était très impressionnant. C'était un personnage, ancien doyen de la Sorbonne, qui avait une très belle stature, qui avait un bras qui lui manquait. Il ne disait jamais que ce bras lui manquait à cause de la guerre de 14. Il était spécialiste de la guerre de 14, il ne disait jamais un seul mot, on assistait à des cours, jamais un seul mot sur son expérience personnelle. Et ça m'a toujours beaucoup frappé de voir que cet homme qui avait vécu une influence très forte, hein, jusqu'à être blessé, alors un traumatisme au sens allemand du terme, hein, eh bien, ça n'intervenait pas. Donc, je crois qu'effectivement, et c'est la première conclusion que j'ai envie de dire, on ne peut pas échapper, dans un sujet comme celui-là, plus qu'un autre, à l'ego-histoire. Et ça nous amène à ce que disait d'ailleurs Lucette au cours de cette séance, mais plutôt et aussi d'autres, la nécessité que l'historien doit avoir une conscience, et plus largement le chercheur en sciences sociales, de ce qu'il est situé dans le temps. Voilà pourquoi, lorsqu'il est en train de surplomber la mémoire ou les mémoires, il faut qu'il soit peut-être, dans une mesure, beaucoup plus modeste. Alors, ceci dit, je ne sais pas si on a tellement réglé le problème du passage de l'individuel au collectif. Car Sandrine nous a appris, enfin nous a rappelé plutôt, on sait, hein, que c'est exactement le contraire. Hein, que le traumatisme individuel fait le pas assez de mémoire, pour reprendre l'expression de Ricoeur, et qu'au contraire, et tu l'as très bien dit, Henri, que le traumatisme collectif, ou tel que nous le voyons, hein, c'est au contraire le trop de mémoire, hein, l'obsession de la mémoire, la remémoration permanente. Alors, à partir de là, déjà, pour répondre à ta grande question, métaphore, concept pertinent, hein, je fais une première interrogation à partir du moment où c'est en deux sens totalement différents. Est-ce que c'est totalement, entre guillemets, pertinent? Et ça, c'est une première interrogation que j'ai. Alors, si nous passons quand même à cette notion collective, hein, de traumatisme collectif, Henri, tu as d'abord, je crois, et c'était très important, cherché à le dater, des années 70-80. Et avec cette idée que ça permettait de faire sortir deux types de mémoire, une mémoire positive et une mémoire négative. Et évidemment, mais c'était implicite ce matin, mais ça s'est explicité fortement cet après-midi, c'est évidemment en rapport avec la Shoah ou l'Holocauste. C'était en rapport avec cet événement découvert, entre guillemets, inventé, dans le cas de ce que je dis, hein, le sens étymologique du mot invention, dans les années 70-80. Alors, Marie-Claire, je te propose qu'un jour ou l'autre, hein, nous reprenions le sujet, à savoir, est-ce que vraiment la Shoah et l'Holocauste est l'alpha et l'oméga, hein, de tout ce qui s'est passé dans les décennies 70-80 dans l'avènement de la mémoire, hein. Il est évident que c'est extrêmement important. Hein, ça, là-dessus, personne ne le dira. Est-ce que c'est la totalité? Je pense que ça vaudrait la peine, hein, de revoir la question et de la revoir un peu systématiquement dans la perspective à la fois qui est la nôtre, transdisciplinaire, à travers un certain nombre de sciences sociales, mais aussi spatiales. Et là, évidemment, l'intervention que nous avons entendue cette parodie de Michael est tout à fait importante, mais pas seulement la sienne. Je pense qu'il faudrait voir avec le phénomène des États-Unis dans quelle mesure le phénomène des victimes en est issu, sous quelle forme, y compris d'ailleurs, et la dernière intervention d'Henri a été très intéressante à cet égard, y compris au point de vue judiciaire. Hein, y compris au point de vue judiciaire et avec ce double passage, la condamnation et la notion de réparation. Je voudrais, en écoutant ce matin la notion d'opposition entre une mémoire positive et une mémoire négative, première remarque, mon hypothèse en tout cas dans ce qui concerne Pierre Nora, c'est que c'est une mémoire faussement positive. Enfin, c'est l'intervention que je fais de l'ensemble des lieux de mémoire, mais je suis persuadé que c'est une manière de se protéger. Mais ça, c'est une intervention personnelle. Mais il y a une autre question, c'est de savoir des mémoires négatives au départ qui deviennent positives. Et là, je crois qu'il faut le creuser, qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Et je n'ai pas du tout l'intention d'en parler, je le signale au départ, mais je suis bien obligé dans ce cas-là d'évoquer l'expérience de la mémoire huguenote française, ce qui a été après la révocation de l'édit de Nantes, qui a été, alors là je crois encore avec l'anachronisme dont parlait Lucette, il y a un vrai anachronisme, mais réel, de dire qu'il y a un vrai traumatisme, double traumatisme, qui n'est pas sans annoncer celui de l'israélitisme. Des gens qui se pensaient complètement intégrés, totalement intégrés, dans un système de royauté dans lequel on est les enfants du père, et qui sont brusquement rejetés. Et puis, deuxième point, des phénomènes précis d'enlèvement d'enfants, de dragonnades, etc., j'insiste pas. Or, ce qui est extrêmement frappant, c'est que cette négativité que l'on a l'avantage de pouvoir suivre à travers un certain nombre de textes, et puis tout simplement à travers l'effondrement brutal en un mois, et qu'on peut même dater. L'intérêt de ce genre d'opération ancienne, c'est que là, on a tous les renseignements archivistiques. Mais cet effondrement en un mois donne lieu très rapidement à une reconstruction de la mémoire qui passe de la négativité à la positivité, et qui se fait en partie par l'appui pas simplement de ce qui se passe dans le royaume, mais de ce qui se passe à l'extérieur du royaume, et qui se fait aussi, donc à partir en quelque sorte d'un double miroir, et qui se fait aussi, et ça valide une de tes hypothèses, qui se fait aussi par la multiplication d'histoires du temps présent. Il y a en particulier l'histoire d'un pasteur qui s'appelle Élie Benoît et qui raconte tout ce qui s'est passé en France depuis l'édit de Nantes 1598 jusqu'à sa révocation. Et d'une certaine façon, les protestants, qu'ils sachent lire ou non, s'appuient sur ce récit. Et alors, si je donne cet exemple, c'est pour montrer l'intérêt, effectivement, de jouer sur et de remonter dans le temps. Et je crois que l'intervention de Lucette sur les Morisques nous a été aussi très utile pour se demander du bon usage de voir les précédents. Et du bon usage de voir les précédents en les mettant en chaîne. Et d'autant plus en chaîne que les Morisques, je lui disais d'ailleurs en aparté, les Morisques étaient fort connus au XVIIe siècle, et ils étaient fort connus par tous ceux qui menaient une politique, bien entendu, anti-espagnole, mais aussi avec l'idée que, d'une certaine façon, ce n'était pas encore les droits de l'homme, bien entendu, mais il y avait un tout petit peu de ça, et que le gros effort de Louis XIV, et surtout de ceux qui écrivaient pour lui, c'est de dire que surtout, il ne ressemblait pas à ce qu'avait fait Philippe III, que surtout l'expulsion des Morisques n'avait rien à voir avec la révocation de l'édit de Nantes. Ce qui est bien entendu derrière cela, je crois que ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a cette notion de la création d'un État moderne. Et donc je me demande si on ne peut pas évoquer traumatisme collectif et création d'un État moderne. Et ceci nous amène à une deuxième période qui d'ailleurs a été évoquée par Henri, c'est la période de la Révolution. Et je crois que c'est un peu dommage finalement qu'on n'ait pas eu sur cet exposé, dans cette journée, peut-être pour ne pas l'avoir, elle était déjà très riche, mais quelqu'un qui aurait pu s'interroger sur la question les traumatismes post-révolutionnaires. Bien entendu, les Vendéens, hein, pas forcément pour dire qu'ils ont eu un génocide, hein, mais pas seulement les Vendéens, je pense aux fédéralistes, je pense à tous ces gens qui ont espéré dans la Révolution et qui ont vu comment ça se terminait. Alors, ce qui veut dire par conséquent que la comparaison dans le temps a un intérêt, et bien entendu aussi, on l'a vu cet après-midi, la comparaison dans l'espace, la comparaison avec l'Allemagne, et encore une fois, dans ce jeu, nous avons bien vu qu'il fallait d'abord s'entendre sur les termes, et qu'à partir du moment où on ne pouvait pas tellement s'entendre sur les termes, ça m'amène à penser de plus en plus qu'il s'agit plus d'une métaphore, hein, qu'une réalité opérationnelle. Finalement, et c'est la dernière remarque que je voulais faire, puisqu'on arrive bientôt à la demi, la dernière remarque que je voulais faire, c'est que, tu l'as dit Denis, c'est que de toute façon, dans tout ceci, il y a la mise en récit. Et qu'il n'y a pas de traumatisme, hein, sans mise en récit. Et par conséquent, il n'y a pas de traumatisme sans tout un habillage médiatique dans tous les sens du terme. Et cet habillage médiatique dans tous les sens du terme fait que forcément, à partir d'un certain moment, il y a une sorte de jeu qui se joue. Alors, ce n'est pas du tout pour nier le fait qu'il n'y ait pas eu des gens qui ont eu des épreuves épouvantables, attention, hein. Ne faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais simplement qu'à partir de là, il y a une sorte d'imitation qui s'effectue, et c'est la raison, vous voyez, pour laquelle je vous ai posé cette question sur la médiatisation. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, je suis complètement d'accord avec vous qu'il y a les gens qui ont vraiment subi une épreuve terrible, un choc terrible, comme a été la Shoah ou le génocide. Pour tous ces gens-là, ils aimeraient bien ne pas être victimes. Mais qu'ensuite, il y a tous ceux qui, et nous en sommes tous un petit peu, qui jouent le spectacle de la victime. Hein. Je ne l'écrirai peut-être pas comme ça, hein, parce que ce serait tout de suite mal interprété. Mais je crois qu'il faut se poser la question. Le résultat, mais c'est une réponse purement personnelle, comme nous sommes dans l'égo-histoire, je peux me permettre, d'autant plus qu'on va s'arrêter, c'est que dans mon esprit, à la fin de cette journée, je ne suis pas sûr, entre guillemets, que la notion de traumatisme soit, disons, un concept très opérationnel pour les historiens, mais dans la mesure où il nous a permis de passer non seulement une excellente journée, mais d'avoir du plaisir à être ensemble, mais aussi à réfléchir ensemble, je crois que ça vaut la peine. Alors, peu importe, c'est une métaphore probablement, mais ça m'est égal.